lights out. And away we go for one more time in 2012. Great start from Hamilton. What a start from Vettel. Ahead of two Red Bulls. Fernando Alonso goes around the outside. Sebastian Vettel has already lost places, getting caught in no man's land on the inside. Hamilton squirms away from Vettel and checks him by Fernando Alonso, challenging Sebastian Vettel and Alonso. Right up for the rest of the cluster towards the speed of the line. It was a cautious start from the championship leader.
Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Cette semaine, pas de Grand Prix, donc ce sera un mag. On va revenir sur toute l'actualité de votre discipline préférée. Pour m'accompagner ce soir, bonsoir Dino.
Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Gus Gus.
Bonsoir.
Non, il ne répond pas.
Ah bon?
Et bonsoir Fab.
Bonsoir. On m'entend pas?
Si, si, mais tu prenais ton temps, c'est pour ça.
Voilà. Ah bon, d'accord.
Ça va messieurs?
Je oui suis de retour.
Oui, c'est vrai.
Je suis un peu comme Niki Lauda, je reviens de l'enfer.
Est-ce que tu es beau?
Ah, plus beau que la semaine dernière.
Espérons.
Oui.
Et toi, Shinji, ça va? On ne te demande jamais. Généralement, on s'en fout de savoir si c'était possible. Si
toi, ah non, on s'en fout, on s'en fout aussi cette semaine.
Oui, ça va.
Donc vas-y, allonge-toi, prends tes aises et parle-nous de ton enfance.
Non, c'était pas très intéressant, surtout qu'il y a plein de choses très intéressantes à parler cette semaine.
Ouais, ouais.
Hein?
Ah bon?
Ouais, oh, t'as même annoncé des trucs avant même que tu connaissais même pas la programmation.
C'est vrai, ça.
Il y a un sujet, c'est évident qu'on allait en parler.
Oui, c'est vrai, on va en parler, ne vous inquiétez pas.
Bah ça, hein, évidemment.
Tout à fait.
Bien sûr.
Alors, messieurs, on va pas changer les habitudes? Et cette fois-ci, je crois que c'est Dino qui a préparé quelque chose.
Préparer est un bien grand mot.
Commençons par le quiz.
Le service après-vente de la F1 vous présente le duel animateur contre chroniqueur. Mais cette fois, c'est chacun pour sa gueule.
Alors messieurs, ce soir, petite question sous forme de chiffres, de nombres, dirait Shinji, puisque c'est le nombre 90 que je vous demande de deviner.
90.
C'est l'année 90?
Non.
C'est le tour de poitrine de Suzy Wolf.
J'aurais aimé le mesurer moi-même, mais non.
C'est un pourcentage?
Non.
Est-ce que c'est un objet manufacturé?
Non.
Donc c'est pas tangible?
C'est 90 quelque chose?
Oui. C'est vaste quelque chose, mais oui.
C'est pas une unité de mesure, je veux dire. C'est...
Ah oui, il y a une unité de mesure derrière, oui.
D'accord.
De longueur?
De longueur pas physique.
Temporelle.
Bravo.
90 secondes?
Oui, oui.
Non.
La durée de ce quiz, 90 secondes.
Je pense pas.
Tu es présomptueux.
Oui.
90
secondes. C'est un quiz qui n'a pas été fait par Fiji, donc c'est un quiz qui va durer plus de 90 secondes.
90 ans?
Oui, en partie.
En partie, ça commence.
Ah, en partie.
Ça commence.
Mais en fait, le problème, c'est pas tellement le quiz et ce qu'on cherche, c'est surtout les réponses, en fait. T'as remarqué? Ça arrange bien pour faire des réponses c'est-à-dire dégueulasses.
Le chiffre est associé à 90 ans, mais aussi à une autre unité temporelle.
Qui est aussi 90?
Qui est aussi 90.
Donc c'est 90 minutes. Ans et 90 jours, quelque chose dans le genre?
C'est 90 ans et 90 minutes. Bravo, Shinji.
D'accord.
J'en profite aussi pour dire bravo à Quentin qui sur le
chat. Oui, qui avait trouvé.
Puisqu'on est en live. Comment tu sais qu'il avait trouvé, Shinji?
Oh,
il triche.
Oh, oui. Oh, le tricheur. Oh, c'est pas beau. Oh, ya.
Alors que nous aussi, on pourrait très bien ouvrir le chat.
Donc rappelons qu'on l'ai pas ouvert, j'ai oublié de le fermer. C'est pas pareil.
Rappelons qu'on est en live.
Oui. Ah, voilà, je le ferme. Là, je vois plus. Promis.
Là, je vois plus.
Je vois plus. Est-ce que c'est la durée d'un film? 90 minutes?
Oui.
Est-ce que c'est One, le documentaire, là, qui doit sortir sur iTunes aujourd'hui?
Non.
C'est un rapport avec Rush?
Non.
C'est un film sur la F1, du coup, enfin, c'est...
Non.
Sur le sport automobile, plus généralement?
Oui.
C'est le premier film sur le sport automobile?
Qui durait 90 minutes, et qui date d'il y a 90 ans.
Va savoir.
C'est lié à une épreuve qui a 90 ans?
Oui.
Les 24 heures du Mans?
Oui, et donc?
Bah, c'est Le Mans?
Non.
Ils vont faire un film documentaire qui va être une rétrospective des 90 ans des 24 heures du Mans.
Je vais t'accorder la réponse parce que t'as trouvé un peu l'idée. C'est le tout simplement c'est le film de la 90e édition des 24 heures du Mans qui a eu lieu cette année, qui comme chaque année va sortir. C'est le film rétrospective. Sauf que apparemment petite nouveauté cette année, il va également sortir au cinéma. C'est pas une sortie traditionnelle. Hein, c'est qu'il sera diffusé au cinéma le 5 novembre prochain. Et seulement dans les salles partenaires de l'opération qui sont les salles CGR de France. Voilà, il y en a deux au Mans et puis il y en a un peu partout en France. Donc le 5 novembre à 20h, vous pourrez donc découvrir ce film de 90 minutes qui revient sur la 90e édition des 24 heures du Mans, remporté cette année une nouvelle fois par Audi. On a l'impression que ça fait 90 ans que Audi gagne. Et donc voilà, c'est effectivement, comme il y a pas mal, on est dans le rush hein, en ce moment, il y a un documentaire qui sort aujourd'hui, il y a d'autres films qui sont prévus pour sortir dans les prochains mois. Là, c'est l'occasion de dire qu'il y a aussi ce film-là qu'on pourra avoir en DVD dès le lendemain de sa sortie en salle. Hein. Il va faire une soirée en salle et on pourra avoir en DVD comme d'habitude le lendemain. Et donc, si jamais vous voulez savoir si vous avez la possibilité de voir ce film à côté de chez vous, soit vous allez sur le site des 24 heures du Mans, 24h-lemans.com, soit vous allez directement sur le site des salles, on ne touche pas d'argent, sur le site des salles.
C'est dommage. T'ont payé ta villa
sur le site des salles CGR qui est www.cgrcinema avec un S à la fin.fr. Voilà, donc c'était l'occasion juste de sortir un peu de la F1 et de nous dire on a un film sur la F1 mais pensant un petit peu aux gens qui aiment l'endurance et qui aiment les autres sports mécaniques.
Dire que j'ai lu cette info il y a genre juste après les 24 heures du Mans quoi.
C'est vrai que ça a été discret parce que j'avais pas entendu parler.
Ah oui, c'est pas
peut-être il y a 2-3 jours.
C'est pas de l'info fraîche.
Ah non, c'est l'info du 5 novembre. Je veux pas faire plus fraîche.
Ouais.
Non, bravo, Chidi, tu as gagné, hein, ta gueule.
Oui.
Pour cette émission exceptionnelle.
Déjà qu'il avait tous les pouvoirs, en plus, il a le ta gueule, disons.
Bah ça a été rapide, comme quoi, y a pas qu'avec moi que tu vois que c'est rapide, Dino.
Ouais, comme quoi
Pardon.
Non mais arrêtez de penser à des trucs, là. Bah dans ce cas-là, on va passer au gros morceau, tout de suite. Le podium de l'actu.
Le service après-vente de la F1 vous invite à découvrir le podium de l'actu. Le seul podium au monde à géométrie variable.
Alors je crois que pour rester en transition avec la question de Dino, on va rester sur le cinéma, hein. Il est sorti mercredi dernier. J'ai envie de demander qui ne l'a pas vu, plus que qui l'a vu.
C'est un bon moment radiophonique, ça, de demander à des gens qui l'ont vu, qui ne l'a pas vu.
On sait jamais,
pertinemment, qu'il y aura un silence derrière.
Mais oui, peut-être qu'il aurait pu y avoir quelqu'un qui, parmi vous qui ne l'avait pas vu. Par contre, peut-être plus intéressant, qui l'a vu en VF et qui l'a vu en VO.
J'habite les deux, mon capitaine.
J'habite provisoirement à Lyon, donc moi, je n'ai que la VF.
Rassure-toi, si tu étais revenu à Rouen, eh bien, tu aurais quand même vu la VF.
Oh non.
Eh bien, nous, à Valence, on avait la VO.
Même pas le pâté, alors que c'est eux qui distribuent le film.
Ah ouais, c'est quand même grave.
On a 3 multiplex, 3 cinémas d'art et essai. Il n'y en a pas un seul qui l'a en VO.
Bouzeux.
Alors que nous, à Valence, on a un multiplex. Bon, alors, il n'y avait qu'une seule séance, hein, mais on l'a eu en VO quand même.
Oui, moi, je me suis fait l'AVF ce week-end et je sors de la VO, là.
Ah, tu sors de la VO.
Ouais.
Tu es allé au cinéma.
Oui, oui. C'est vrai que c'était bizarre.
Clément, sur le chat, a pas tort. Il a dit, il l'a vu en VF, mais aussi en VO, puisque c'est vrai que les parties en allemand, elles, n'ont pas été doublées.
Ah, si. Les parties en allemand, dans la VF, sont doublées par le doubleur qui double Daniel Brühl. C'est quasi sûr.
Bah ça, généralement, il redouble même les parties en allemand, enfin, même les parties en langue étrangère, il les redouble pour avoir la même tessiture de voix. C'est d'ailleurs la démonstration qu'ils se sont gaufrés dans le choix du comédien qui fait la voix.
Oui.
Parce que théoriquement, ils auraient dû prendre un comédien qui restitue un peu la voix de Daniel Brühl, mais non, que dalle. Il fait juste bien l'accent autrichien.
Oui. Alors, on va quand même essayer, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui ne l'auraient pas encore vu, hein. Donc, essayons quand même. Alors,
c'est un Faites peu comme... avance rapide.
C'est un... Non, mais c'est surtout un peu comme Titanic. C'est-à-dire, on connaît l'histoire, mais on va quand même éviter non plus de trop dévoiler des trucs. Voilà.
Ah non, moi je suis pas d'accord, moi je veux tout balancer, moi. J'ai préparé un retour en détail sur le film, plan par plan. un détail, plan par plan.
Il a fait un commentaire audio.
Oui, d'ailleurs, je vous l'aurai pendant la pause pour en faire pipi, hein.
Il dure 2 heures le film quand même, hein. Ça fait long comme pause.
Plusieurs pipi. Tu fais ce que tu veux pendant 2 heures, je te dis.
Donc déjà, on le ressent, hein, je crois que tout le monde ici a un avis plutôt positif, hein, sur le film.
C'est le moins qu'on puisse dire.
tu fais bien de dire plutôt positif.
Parce que... Toi, tu as des remarques, donc.
Oui, non, mais clairement, moi je suis déçu.
Ah.
Pourquoi ça ne m'étonne pas?
C'est un peu plus complexe que le film est très bien et enfin sincèrement, je n'ai pas de gros reproches à lui faire. Mm-hmm. Maintenant, j'avoue que on nous a vendu le duel Hunt Loda et quand j'ai regardé le film, je me suis dit mais enfin, je connaissais Loda, je connaissais Hunt, je connaissais l'histoire de cette saison 76, mais je ne connaissais pas véritablement la rivalité Hunt Loda. Et en fait, quand on regarde le film, on a l'impression qu'on a un petit peu monté cette rivalité en mayonnaise pour donner une certaine homogénéité et donner un fil rouge à ce film. Alors que moi, sincèrement, moi, j'ai pas du tout accroché. Enfin, j'en avais rien à foutre de la rivalité Hunt Loda durant le film. Ce qui m'a intéressé, c'est le retour de Loda, c'est la dernière course, voilà, qui sont très bien restituées. Mais j'ai pas adhéré à ce. Et d'ailleurs, la preuve, c'est clair que pendant la première partie du film, pendant quasiment une heure, on a soit 5 minutes autour de Hunt, soit 5 minutes autour de Loda. On n'a jamais les deux en même temps. Enfin, ils ont même été obligés d'inventer des passages, d'inventer des trucs ou de corriger un peu.
Oui, il y a des trucs qui sont pas vrais, autant le dire.
Pour avoir des moments où vraiment la rivalité, elle se sent. Mais en fait, c'est juste une rivalité de personnages et de styles. On n'a pas l'impression vraiment qu'il y a de rivalité. Donc en fait, moi, j'ai rien appris, en fait. J'ai rien découvert dans ce film. J'ai été déçu de ce point de vue-là parce que.
C'était peut-être pas le but non plus. Enfin, surtout par rapport à des gens qui connaissent l'histoire de la F1, le film ne s'adresse pas non plus qu'aux fans de F1.
Non, mais c'est pas une question de fans de F1. C'est qu'on nous vend un film qui est censé nous raconter une rivalité. Sauf que je suis désolé, tout ce qui relève de la rivalité Hunt-Loda, c'est des poncifs qu'on voit dans tous les films américains.
C'est vrai qu'il y a. Je dois reconnaître aussi, il y a des très gros poncifs. Il y a même parfois des trucs, au tout début avec Hunt, où sans rien dire, il arrive à l'hôpital. C'est au tout début du film. Mais c'est presque
scène.
Du cartoon. Oui, voilà, c'est la première scène. Mais c'est presque du cartoon le truc. Il arrive et puis bon, c'est du Tex Avril machin.
Ah oui, non, ça je vois de quoi.
Voilà.
Il fallait que je remonte parce que moi, le début du film m'a pas beaucoup marqué, donc du coup.
Oui, c'est le tout début. Hein. Il arrive à l'hôpital et puis voilà quoi, il fait sensation, on va dire.
Mais après, enfin, le film est très très bien. Mais voilà, moi c'est-à-dire que j'ai retrouvé ce qu'on retrouve dans beaucoup de films, notamment sur le sport, la rivalité entre deux hommes qui peuvent pas se piffrer. Puis à la fin, en fait, ils se sont poussés l'un l'autre, ils ont bravé les obstacles, et à la fin, tout le monde est un peu vainqueur. Et j'ai trouvé ça un peu pathos, quoi. Et c'est ce que je voulais pas voir, c'est ce que je m'attendais pas à voir, parce que j'ai des références sur Ron Howard, qui est un réalisateur que j'apprécie beaucoup, qui, c'est même pas le fait qu'il modifie parfois l'histoire qui me perturbe, parce qu'après tout, c'est pas problématique. Il l'a fait avec Apollo 13, il l'a fait aussi avec Cinderella Man, où il faut pas
s'en offusquer. Ça reste un film, une fiction. Mais si on veut le détail exactement de ce qui s'est passé, faut aller voir du côté des livres, des témoignages et des documentaires. Et ça peut être justement une bonne façon de découvrir cette histoire.
Ce que je trouve dommage, c'est qu'on a effectivement, c'est-à-dire qu'on a deux films en fait dans un seul film. On a le film sur Hunt et le film sur Loda. Les deux sont. Quand je vois les deux parties du film, je me dis mais il aurait pu se concentrer sur l'un comme sur l'autre. Il aurait fait un film génial. Mm-hmm. Là, il fait un très bon film. C'est sans doute l'un des meilleurs films. En même temps, ils sont pas nombreux, l'un des meilleurs films sur la F1 et sur le sport auto qui a été fait. C'est brillamment réalisé. Enfin, voilà, tout est, le film est quasiment parfait.
Oh, tu sais, il y a des
j'adhère pas à ce mélange, à cette mayonnaise qui pour moi ne prend pas. La mayonnaise de l'histoire ne prend pas.
Il y a des gens visiblement qui sont journalistes au Cahier du Cinéma qui préfèrent Driven, hein.
Oui.
C'est ma femme.
Oui, oui.
Et au Figaro, ils ont trouvé que, comment ça s'appelle, Jour de tonnerre était un film sur la F1. Il va juste falloir qu'on leur file le règlement technique, ne serait-ce que pour qu'ils comprennent.
Alors, moi j'avoue que le film a beaucoup plu, mais j'en suis sorti frustré. Parce que j'avais... Enfin, c'est vraiment les yeux de fans de Formule 1, quoi. J'en suis sorti frustré parce que j'ai trouvé qu'il y avait un vide autour des deux personnages, abyssal, parce que des personnages secondaires très peu surnagent.
Oui.
À la limite, la femme de Loda, et la Marlène Loda, est la seule à surnager dans le reste. Sinon, après, Suzy Miller n'a qu'assez peu d'intérêt au final. Et puis, bon, bah, après, tous les personnages qui font partie de l'entourage.
Même au niveau des autres pilotes.
Oui, alors voilà. Alors, moi, ça, c'est...
Alors, il y en a un, on va dire, qu'on voit quand même pas mal, qui est Claire Gazzoni.
Voilà, exactement. Et
mais
moi,
après, c'est
que...
la figuration.
Bah ouais, j'avoue que moi, ça, c'est un peu.
Philippe Aldi figurant.
Non, mais c'est ça. Il y a ce côté, mais tu le retrouves beaucoup dans les films de sport en général. C'est que tu as l'impression que les autres sont des coquilles vides, quoi. Et alors effectivement ils existent, mais ils existent en tant qu'obstacle, quoi. Ils existent en tant que pion sur un circuit. Et je trouvais que la manière dont on avait raconté cette histoire, je précise bien, la manière dont on a raconté cette histoire avait fait de Loda et de Hun des personnages très intéressants, relativement complexes par rapport à l'idée première qu'on s'en fait au début du film. Et je trouvais dommage qu'il n'y ait pas. Alors évidemment c'est un film de 2 heures, on n'est pas là pour raconter l'histoire de la biographie de l'ensemble des pilotes de Formule 1. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu, je ne sais pas, peut-être des petits rappels, parce que c'est vrai qu'on parle de Regazzoni, c'est sûr que c'est le pilote après les deux autres qui revient le plus souvent. Et encore, c'est vraiment très très mineur. Il doit avoir 3-4 phrases dans le film, quoi. Et Regazzoni, il y avait des trucs à faire, comme le fait qu'à Fuji, ça ne se passe pas du tout comme le film le montre pour Regazzoni sur la remontée de Hunt. Il y avait aussi des trucs à faire du côté de Mer Zario qui sauve Loda alors qu'il le déteste notoirement. Enfin, je trouve qu'il y avait des choses pour faire monter l'intensité aussi, la dramaturgie du film. Après, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Dino, dans cette rivalité qui est vraiment proprement fabriquée, quoi. Le film est très bien, mais c'est vrai que tout est fait pour monter en épingle quelque chose qui d'ailleurs est assez poussif, je trouve, parce qu'ils se détestent jamais vraiment beaucoup. Et à la fin, alors ils se respectent, mais c'est pas une franche camaraderie non plus. Et ça contraste un peu d'ailleurs avec un passage qui est tout à la fin où Loda fait une rétrospective sur des images d'archives de la vie, de leur vie après 76, surtout celle de Hunt, où on voit très nettement qu'ils se parlent de manière très cordiale, enfin qu'ils sont amis, quoi, dans le paddock, alors que tout le long du film, et ça même avant l'accident du Nürburgring d'ailleurs, hein, puisqu'on voit des images où Loda n'est pas affecté, et ça tout le long du film on le voit pas. Et comme tu dis, Dino, ils se retrouvent assez rarement ensemble, et quand ils se retrouvent ensemble, c'est vraiment pas cordial. Donc effectivement, après, il faut comprendre aussi qu'on est sur un film de 2 heures, qu'il faut bien arriver à créer des antagonismes et tout, mais c'est vrai que là-dessus, je trouve que c'était peut-être un peu surfait. Après, tout le reste, moi, ça me semble être un excellent film. Alors bon, évidemment, excellent film, quand on dit meilleur film sur la F1, bon, il y en a eu 3. meilleur film sur le sport auto, bon, là, c'est pareil, il n'y en a pas eu des centaines. Donc c'est sûr que c'est un excellent film, je pense qu'il mérite toutes les critiques positives qu'il a eues, mais effectivement il y a quelques endroits qui sont un peu plus délicats. Mais est-ce que c'est, je pense que très sincèrement c'est parce qu'on connaît toute cette histoire finalement. Je suis sûr que quelqu'un qui va en connaissant juste le fait que Loda, voilà, parce que Loda il est quasi connu tout le monde pour ça, d'ailleurs le début du film c'est ça, je suis connu pour 2 choses, la deuxième c'est son accident, quoi. Et
la première on a oublié.
Bah non, mais bon, la première, voilà, enfin la première c'est la rivalité avec Hunt. Alors bon, voilà, forcément le film c'est l'objet, donc c'est le sujet, donc forcément à un moment il faut bien que tu fasses croire que il y a que ça, que c'est une des choses qui caractérise Loda. Mais effectivement, après, je pense que pour les yeux de quelqu'un qui va voir, qui veut passer un bon moment, il a un film assez complexe et un excellent film, quoi. Enfin,
mais c'est là où on voit aussi que Ron Howard n'est pas un passionné de Formule 1. Après, c'est pas un reproche sur le film, parce que le film est, enfin, moi j'ai été le voir avec mon neveu, avec mon frère, qui sont pas spécifiquement des fans de Formule 1, qui sont fans de sport auto, enfin qui suivent les sports auto, mais qui sont pas spécifiquement fans de Formule 1. Et ils ont adoré le film. Moi, j'étais dans une salle où apparemment c'est pas le cas partout, mais où il y avait facilement 20-25 personnes un dimanche soir à 18h. c'est juste une fierté aussi. aussi d'être dans la salle et de se dire les gens voient ça, la F1 renvoie une belle image, même si c'est traficoté ou même si moi personnellement il y a des choses auxquelles j'adhère pas, il y a la satisfaction quand même de sortir du film en disant enfin on a un film qu'on peut montrer aux gens et pour leur faire comprendre ce qu'on vit, quelle est notre passion, que derrière simplement des mecs qui tournent en rond, il y a des hommes et que c'est avant tout ces hommes-là qui nous intéressent. C'est tous ces personnages qui vraiment nous intéressent. Mais là où on voit que Ron Howard n'est pas un spécialiste de la Formule 1, c'est que si vraiment il voulait jouer sur une rivalité entre pilotes, c'est pas Hunt Loda qui l'aurait choisi. Hunt Loda, fondamentalement, il choisit Hunt Loda parce que la saison, c'est l'accident de Loda, que c'est spectaculaire. S'il voulait vraiment travailler, et s'il avait été fan de Formule 1 ou même simplement de sport mécanique, s'il avait voulu travailler sur une rivalité, il aurait pris Prost Senna, où là, c'est pas forcément spectaculaire, y a pas de grand crash ou de gros truc dramatique, mais en termes de rivalité, on est quand même là dans quelque chose qui est vraiment une rivalité, qui a une profondeur absolument extraordinaire et qui faisait une putain d'histoire. Donc moi, c'est surtout sur l'argument de vente du film. Après, le film, il est parfait, quoi. Y a pas grand chose à acheter du film.
Bah alors moi je reviens sur ce qu'a dit Fab, parce que justement, moi de cette saison 76, j'en connaissais pas grand chose à part effectivement l'accident de Loda et le résultat final. Donc moi tous les problèmes que vous avez vus sur la rivalité de Hunt Loda qui est un peu dans le trait et grossi par rapport à la réalité, tous les problèmes que vous avez vus, bah moi je les ai pas ressentis, donc du coup moi j'ai évidemment pas beaucoup de reproches à faire au film, quoi. Puis je suis pas un spectateur de cinéma très 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 exigeant, on va dire, donc...
Mais moi, si tu veux, c'est justement ça le problème. C'est que, au-delà de ce que je connais et de ce que je pense chacun fan connaît de cette saison 76, je m'attendais à découvrir cette rivalité Hunt Loda. Sauf qu'en fait, on est vraiment dans une rivalité qui est pas une rivalité entre les deux hommes, mais qui est plus une rivalité que nous on voit de deux styles. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai trouvé aussi très intéressant dans le film, c'est que moi qui suis fan de Formule 1, dans le contexte dans lequel sort le film avec un Vettel qui domine et qui le lundi deux jours avant la sortie en France sort dans une interview au Bild, je crois que les autres se tournent les pouces à la piscine le vendredi quand Red Bull et lui continuent de travailler, que t'as Loda qui a défendu Vettel, enfin voilà, tu retrouves, je me suis un peu retrouvé dans ce contexte et forcément ça fait appel à des choses d'actualité, ce personnage de besogneux, d'ordinateur, c'est quand même le surnom qu'on donnait à Loda, on l'appelait aussi le rat, physiquement mais aussi le rat par son intelligence, d'ailleurs il en parle dans le film.
Oh oui.
Voilà, c'est face à effectivement un Loda qui lui plus festif et qui représenterait un petit peu l'image de ce qu'imagine être tous ses rivaux de Vettel, quoi. Donc j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs lectures intéressantes, plusieurs échos à ce qu'on vit aujourd'hui en Formule 1.
Après, pour parler d'autre chose, moi je trouve qu'ils s'en tirent très bien au niveau des scènes de course à proprement parler. Alors, ils s'en tirent très bien pour deux choses. D'abord, la première, c'est qu'ils n'en montrent pas beaucoup. Ça a aussi l'avantage de bien faire comprendre quand sont les moments importants, si on l'avait pas compris par la montée en puissance tout le long du film. Et quand sont les moments vraiment importants du film, c'est-à-dire les grands prix d'Allemagne et du Japon, où là, on a vraiment des scènes de course un peu plus longue, mais le deuxième élément, c'est que évidemment ils compensent le fait que les scènes sont pour la plupart filmées à des vitesses relativement modérées par vraiment quelque chose d'assez dynamique au niveau de la réalisation. On change très rapidement de plan, effectivement les caméras sont plus immersives, mais vraiment plus immersives que ce qu'on a l'habitude de voir, mais en même temps c'est toujours l'écueil, le risque des films de sport, on en avait déjà parlé, mais le problème c'est que tu te retrouves confronté à des images qui ont déjà été filmé, des émotions qui ont déjà été ressenties, et puis une vitesse que tu n'as pas à retranscrire effectivement à la télévision puisqu'elle est déjà là. Au contraire d'un film où tu n'as pas la vitesse, il faut que tu changes un petit peu les perspectives, et tout est intéressant là-dedans. D'ailleurs, le traitement des premières courses est là aussi assez dynamique. On n'en voit pas beaucoup, c'est sûr, mais d'une certaine manière, ça fait monter en puissance le reste, et c'est quand même intéressant pour arriver au Nürburgring, qui est vraiment la plus travaillée, je pense, en termes d'immersion, parce que l'accident de Loda, il est recréé à l'identique, donc dans les images, c'est la même chose que les images d'archives des amateurs, mais en Ensuite, il y a quand même beaucoup d'immersion avec des caméras placées au centre de l'accident. Et là pour le coup, on découvre quelque chose. C'est une nouvelle émotion par rapport à... enfin, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais c'est vrai que moi, par rapport aux images qu'on a vues et revues de l'accident de Lauda, c'était nouveau, quoi. C'était au cœur du brasier, c'était...
Ouais, c'est fort.
Ces frissons, ouais, cette sensation...
On voit au milieu des flammes, littéralement.
Voilà. Et ça, pour le coup, je trouve que le pari est vraiment réussi, quoi, sur ce plan-là, parce que c'est vraiment le truc sur lequel il peut être le plus attendu. Alors évidemment, tout n'est pas crédible hein, dans les scènes de course, hein. Notamment les dépassements. Les dépassements se font quand même assez peu crédibles. On dirait des dépassements avec DRS en fait. voilà. Mais ensuite, pour le reste, il s'en tire vraiment pas mal. Et c'est là, de ce point de vue-là, on est quand même loin des horreurs qu'on a pu voir récemment. Quoi.
Moi, j'ai quand même eu très peur avec la première scène de course en F3, la course de Crystal Palace, avec l'accident Hunt-Lauda, accident oui. qui n'a jamais eu lieu, hein, parce que c'est pour ça aussi que je vais rebondir quand même tout de suite sur un commentaire qui a été fait sur le chat de Fabio SDI, ou SDI, je sais pas, qui disait qu'il a appris des choses. Il faut aussi faire attention parce que justement, il y a des faits historiques qui ont été un peu arrangés, et notamment cette course de F3 où Lauda et Hunt ne se sont jamais croisés en fait. C'était un autre mec, l'accident et le règlement de compte aussi qui a suivi, c'était avec un autre mec. Et bon, bah, pour les bienfaits de l'histoire et pour monter un peu cette rivalité et en faire la dramatique du film, on a décidé que ce serait Lauda à la place de l'autre type que personne ne se rappelle du nom. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y a par exemple une scène avec un journaliste. Moi, j'ai pas l'anecdote. Est-ce que je sais que mon frère m'a dit, mais c'est vrai l'histoire du journaliste, il a vraiment fait ça, Hunt. J'ai pas de preuve. Donc c'est bâtir un personnage, une relation entre les personnages sur des choses qui sont pas véritablement avérées ou en fait, je me suis mis à douter de tout ce qu'il pouvait dire dans le film que je ne connaissais pas. Maintenant, c'est vrai que l'accident de cette course de F3, pour revenir vraiment sur l'aspect technique, j'ai eu quand même très peur parce que l'accident,
c'est vrai,
fait
oui,
un peu Driven.
C'est vrai, oui. C'est après, très visible.
Après le reste est franchement de très très belles factures, quoi. C'est, même s'il y a des erreurs de voiture ou ce genre de choses, même s'il y a on voit très bien qu'il y a des circuits genre par exemple Paul Ricard, il y a une course qui est censée se passer au Paul Ricard et la piste est gondolée. Bon, après ça c'est des voilà, ça c'est des détails que nous on voit. Il y a même à un moment donné, je crois qu'ils ont tourné au même endroit la sortie des stands de Fuji et du Nürburgring, parce que c'est exactement la même sortie des stands, même configuration, tout est pareil. Donc après ça c'est des détails que nous on voit parce qu'on a un œil expert. Maintenant, c'est vrai qu'il faut regarder, c'est que le film ne s'adresse pas uniquement aux fans de Formule 1, et c'est sa réussite, c'est qu'il s'adresse aussi à un public plus large qui, lui, voit surtout l'histoire. Et même nous, en tant que fans de Formule 1, je m'arrêtais pas à dire ça, c'est pas logique ou ça, c'est complètement faux, parce que c'est tellement bien emballé, c'est tellement bien rythmé. Il y a des pauses. En fait, on s'y attarde pas. C'est après coup qu'on se dit bon bah il y avait par-ci par-là quelques trucs qui clochaient, mais dans le film ça nous dérange pas et le côté immersif est toujours là.
Ah, tu sais, c'est la citation de Victor Hugo, je crois. On peut violer l'histoire si on lui fait de beaux enfants.
Oh. Oh. Moi, tu dis c'est du Victor Hugo, ça.
Eh oui.
Ah ouais, non, mais là...
on est complètement là-dedans.
On n'aura pas les mêmes citations tout à l'heure.
Il y a un autre aspect aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il a respecté l'affichage de l'époque, qu'il a joué aussi, ne serait-ce que dans la présentation des grands prix, sur les noms des grands prix. C'était bien intégré. On se retrouvait avec les classements de l'époque. C'était très didactique en fait, sans être trop didactique. C'était quand même très didactique et ça permettait aux gens même qui sont, je pense que ça permet aux gens qui ne sont pas habitués à la Formule 1 et pas habitués au sport mécanique de malgré tout comprendre la progression et le déroulement de cette saison, de comprendre les enjeux. Il y a quand même ces petits moments de je pense notamment les enjeux de la dernière course à Fuji sont très bien posés. Il y a pas besoin de il met un tableau, il y a juste la voix off du speaker qui dit voilà, il faut absolument qu'il gagne et qu'il finisse, enfin qu'il domine Lauda, et voilà, c'est tout simple. C'est
Et encore, ils ont été très light sur
la fin de saison.
Sur la fin, puis même globalement sur toute la saison, parce que effectivement, ils parlent d'un incident. Alors là, je peux en parler parce que ça s'est multiplié dans les extraits qu'on peut voir sur Internet, mais de l'incident, de la disqualification de Hunt au Grand Prix d'Espagne. Mais c'est une saison qui est de ce point de vue-là presque pourri par les affaires extra-sportives. Il y a aussi l'affaire du... Là, par contre, on n'en parle pas dans le film, mais le Grand Prix de Grande-Bretagne. Dans le film, on voit la victoire de Hunt, et dans la réalité, Hunt, effectivement, l'emporte, mais il sera disqualifié plus tard dans la saison parce que parce qu'il a pris le second départ alors qu'il n'y était pas autorisé. Donc voilà, enfin c'est vrai qu'on a quand même simplifié un petit peu, quand on a complexifié peut-être les personnages, parfois on a beaucoup simplifié le déroulement de la saison. C'est sans doute mieux comme ça. De toute façon, le parti clairement c'était pas de s'intéresser, enfin c'était pas de mettre au centre du truc la saison de Formule 1 de 76. Donc à partir de là ça se comprend. Mais bon, en tout cas, enfin c'était quand même une saison bien plus pourrie que ce que le film en laisse supposer, quoi.
Mais même sur la fin de saison, on n'assiste à aucune des victoires de Loda, qui gagne quand même des courses après son retour.
Oui. Mais
ça ne nous manque pas dans la mesure où il y a le Grand Prix d'Italie, je crois, où il revient, où il termine quatrième. Oui. Et où là, pareil, la course, l'exploit de cette course, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on ne s'est pas contenté de dire qu'il a gagné après, c'est qu'on a réussi à restituer le fait qu'une quatrième place avait été un exploit.
Ouais.
Et reste aujourd'hui sans doute le plus grand exploit. Quand on parle de cette saison 76 et du retour de Loda, c'est pas les victoires qui viennent en premier lieu, c'est que ce mec-là, de retour, 46 jours, je crois, après son accident, de
ouais,
retour
42 ou 46, quelque chose comme ça.
De retour son accident, ce mec-là fait une quatrième place. C'est juste extraordinaire, quoi. Après, il y a aussi des petites choses à un moment donné quand alors là je sais peut-être pas fait volontairement, c'est aussi ce qui est intéressant quand on est fan de Formule 1 et qu'on connaît un petit peu l'histoire, c'est qu'il y a des choses automatiquement qui chez nous éveillent des trucs, et je pense notamment quand Loda arrive chez BRM et qu'il fait changer sa voiture en leur demandant s'ils ont pas des pièces en magnésium.
Oui, ça c'est
c'est sûr.
Quiconque connaît un peu l'histoire de la Formule 1, je crois que c'est Roger Williamson qui est mort dans sa voiture qui était tout en magnésium parce que ça elle avait flambé. Et tu te dis, voilà, il montre l'accident quelques minutes avant dans une vidéo. Et derrière, tu sais que Loda va manquer de mourir dans un accident où sa voiture prend feu. Donc tu dis, c'est des trucs, moi, pendant le film, qui m'ont heurté, c'est des petits détails comme ça. Et c'est toujours plaisant d'avoir ce petit côté exclusif quand même. T'es dans la salle, tu dis, ça magnésium, il n'y a que moi qui ai compris.
ouais, non, mais c'est vrai. Et bah, d'ailleurs, pour parler de ce passage-là, c'est vrai que. Moi, il y a quelque chose un petit peu qui m'a surpris. Mais alors, je sais pas si c'est dans le bon ou le mauvais sens. Mais effectivement, il y a tout au long du film la présence de la mort, mais elle est discrète. C'est-à-dire que effectivement, parfois on dit je veux pas risquer plus que voilà, je risque de me tuer, mais je veux pas risquer plus que j'ai décidé. Il y a le côté je pilote une bombe sur roue, mais la mort en elle-même et c'est un peu ce qui est paradoxal aussi, parce qu'on commence le film en disant sur un monologue de Loda qui dit chaque année on a deux morts. La saison 76 pour le coup c'est une saison sans mort. Et pour te restituer le côté un peu dangereux de la Formule 1, mais visuellement, on crée un... Alors, c'est là aussi, il y a quelque chose, c'est qu'on mixe deux accidents. Quand ils sont à Watkins Glen au tout début, quand oui. Hunt et Loda sont arrivés sur le plateau de la... Enfin, voilà, sur le plateau. Il y a cet accident à Watkins Glen. Alors, l'accident lui-même, c'est l'accident de Helmut Koenig.
C'est qui est quand même très gore, hein, d'ailleurs.
Qui est très gore, d'ailleurs. C'est bon. Enfin bon, l'accident de Sever est pas mal non plus dans le genre, mais c'est vrai que celui de Koenig est particulièrement visuel, quoi. Donc c'est bon, on raconte pas, voilà, bon, bref. Et en même temps, c'est une Tyrell. Ça a l'air d'être la saison 73.
Oui.
Donc bon, là, on
il
voit.
Il parle du replay de Tyrell après. Donc,
voilà, il parle du replay de Tyrell. Donc on voit qu'ils ont mixé deux choses, parce que c'est pas l'accident de Sever. C'est la voiture de Sever, c'est le retrait de Tyrell, mais en même temps, c'est l'accident de Koenig. Donc là, sur ce coup-là, on voit qu'ils ont essayé de mixer, je pense, les deux, quoi, hein, voulant pas faire, je sais pas, j'ai pas lu le bouquin duquel est tiré le film, mais
ouais.
je pense que doit y avoir dans ce livre, les deux accidents sont séparés, quoi.
Tiens, sur le chat, Adelin demande si dans la réalité, les conditions de sécurité étaient si désastreuses.
Ah bah totalement, surtout l'accident, surtout à Watkins Glen où les barrières là, qui étaient appelées les Armco étaient, et puis même d'ailleurs à Monza 70, hein, quand Rint se tue, il passe, sa Lotus passe sous la barrière, ce qui une des raisons qui l'a tué. Koenig passe sous la barrière et décapité, Sever est coupé en deux par les barrières à Watkins Glen aussi. Donc c'est non mais c'est réellement ça hein. Là pour le coup il y a pas de problème là-dessus. C'est mais je trouve que d'un film, enfin c'est vraiment genre le truc on pourrait vraiment accentuer dessus, enfin et je trouve qu'ils ont été très discrets sur ce plan là. J'en ai presque été contrarié quand je suis sorti la première fois, et j'avoue que sur la deuxième fois ça m'a presque dans un sens rassuré, parce que toute la dramaturgie, alors même s'il y a l'accident de Loda, c'est évident, mais je veux dire c'est pas qu'on te rappelle pas sans cesse que la mort machin, on voit 2-3 accidents mais c'est pas des accidents mortels, bon voilà, enfin je trouve qu'ils ont pas trop joué dessus et c'est plutôt appréciable en fait finalement quand on regarde bien.
Donc pour conclure, c'est vrai qu'on a peut-être paru très pinailleur, mais c'est vrai que voilà, nous on est dans les F1, on sait comment ça s'est passé et tout ça. On conseille le film à tous ceux qui ne l'ont pas vu.
On va faire partie de ceux qui vont réserver le film l'édition collector qu'on va regarder au moins 15 fois, faut être honnête.
Mais aller au cinéma rien que pour le son. J'avoue que moi j'attache pas beaucoup d'importance au son des Formule 1, ça m'est un peu égal. Bon, peut-être parce que j'ai jamais été sur un circuit, c'est peut-être le truc. Mais j'avoue que le son est extrêmement immersif, et à chaque fois qu'il y a une poussée des moteurs, c'est des frissons. La musique est très bonne, c'est comme d'habitude, j'ai envie de dire, avec Zimmer en général. D'ailleurs,
il y a un moment quand même dans la musique qui est raté, mais là encore une fois, c'est parce que on a des références. C'est, je crois, l'une des premières courses où il y a la musique, l'une des musiques phares de Jour de Tonnerre.
De Jour de Tonnerre, ouais.
Et c'est vrai que quand t'as la référence, tu tombes là-dessus, ouais, et tu dis non, choque. Les gars, là, pour le coup, c'est vraiment quasiment même le champ lexical, quoi. Donc, fallait trouver autre chose.
Mais voilà, on tient à rassurer Oasis qui est sur le chat. C'est vrai que là, on est très pinailleur, très pointu. On pourrait croire qu'on a été déçu, mais non, il n'y a pas de souci. Vas-y, fonce. Si vous avez l'occasion de la voir en VO, allez-y en VO.
Mais la VF est pas si mal que ça, très
franchement. Oui, ça va.
Et beaucoup disent que la VF est immonde, mais très franchement...
c'est surtout l'accent peut-être allemand,
il y a un moment, il faut occulter ça, parce que sinon, tu la laisses tout le film, quoi. Mais franchement, pour avoir vu la VO, la VF est même plus complète, d'ailleurs, globalement. Hein. Les choses qui sont dites en VO sont pas forcément toujours traduites. Bon, alors, c'est normal aussi pour des raisons de rapidité et tout ça. Mais la VF est très complète sur ce que les gens disent, quoi. Il y a même certaines remarques qui ne sont pas traduites dans la VO et qui le sont dans la VF, et c'est pas plus mal, quoi. Ça renforce un peu le côté immersif, quoi. Mais la VF,
tout ce qui est trop mal, voix du speaker et compagnie, je pense que ça, c'est généralement le genre de truc quand tu le regardes en VO sous-titré, sauf si tu piges bien l'anglais.
Ouais.
Généralement, tu passes à côté.
Tout à fait.
Il y a invité sur 110 qui demande sur les acteurs. Daniel Brühl en Niki Lauda, c'est juste le meilleur choix qu'il pouvait faire.
Il pète le feu.
Oui, sans mauvais jeu de mots.
Ouais, non, mais très bon, les deux d'ailleurs.
Ouais, enfin, sans les sous, pour le coup.
Moi, j'étais un peu inquiet pour Chris Hemsworth parce que, enfin, voilà, c'est le type qui fait Thor, et je me disais qu'il est quand même un peu carré pour faire James Hunt, et en fait, non, pas du tout, ça passe très bien.
Mais quand tu regardes Hunt était quand même assez carré. Hein.
Oui, c'est vrai.
À un moment donné, on voit, c'est rigolo, parce que sur la fin, tu revois les photos des vrais pilotes, et en fait, sur ce coup-là, tu te dis la ressemblance, elle est plutôt du côté de Chris Hemsworth que du côté de Daniel Brühl. Mm. Là où c'est vrai que Daniel Brühl, enfin, en même temps, il a aussi le rôle peut-être le plus dramatique à jouer. Hemsworth, il est plus dans le côté dandy de Hunt. C'est peut-être le rôle le plus sympa à jouer en termes d'image, parce que c'est le beau gosse et compagnie. Brühl, il est quand même dans le côté dramatique.
Il est destiné à avoir une sale gueule, quoi, au moment dans le film.
Brühl, il doit quand même jouer le connard de service, parce que c'est un peu ce qu'est Loda. C'est un peu le connard de service.
Ouais, exactement.
En tout cas, il est perçu un peu comme ça, même à l'époque. C'est lui-même, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Loda récemment. Il a expliqué que lui aussi avait été hué en 1977 lors du Grand Prix d'Allemagne, alors qu'il est sur le podium, je crois même qu'il gagne ce Grand Prix-là. Il est hué parce que on juge qu'il est responsable du projet de fermer le Nürburgring, enfin de la fermeture du Nürburgring. Donc c'est quand même dire que c'est quand même un pilote qui n'est pas non plus une formidable cote de sympathie auprès du public, parce que c'est un peu le Vettel de l'époque, quoi. Mais oui, les acteurs sont... Après, c'est toujours difficile quand on voit la VF de juger une performance d'acteur.
Oui.
C'est pour ça que généralement, je vais voir les VO. Oui. Mais après, sur le jeu, on est quand même... En tout cas, pour Daniel Brühl, on est vraiment dans la performance d'acteur à l'américaine. Voilà, celle qui... Oui. C'est le maquillage, c'est la mimification maximale du personnage. Là, on est complètement dedans. Hunt, c'est plus subtil, c'est moins... Oui. C'est moins flagrant.
Ouais, non, mais c'est ça, quoi. Je dirais pas ce que Brühl, c'est la performance physique qui est impressionnante, parce que j'écoutais nos confrères de 24 FPS, d'ailleurs, sur Rush, hier. Très bon podcast, d'ailleurs, je le conseille. Il disait que la palette des émotions, enfin, la palette des émotions était plus du côté de Hunt, enfin, du côté donc de Hemsworth. Et c'est vrai, en fait, en revoyant oui. le film, c'est très vrai, quoi. Il passe d'un extrême à l'autre, quoi. Il passe du dandy à l'alcoolique déprimé pendant le film, quoi. Donc, de ce côté-là, c'est sûr. Brühl est plus constant, mais excellent, par contre, dans la constance. En même temps, Loda est constant. C'est ça qui est bien aussi. Il y a ce côté-là. Loda, c'est quelqu'un de froid. C'est pas le bon mot, mais disons que c'est quelqu'un de tempéré, quoi. Il reste souvent sur la même longueur d'onde. On le voit très peu douter, finalement. Quand il doute beaucoup, ça se perd à soi, mais il reste quand même très dans une certaine bulle, quoi. Et pour le coup, vraiment, Brühl est très bon là-dedans, quoi. Et Hemsworth, moi, j'avoue que j'ai pas vu Thor. C'est pas mon trip, mais c'est la première fois que je le voyais en film et j'ai trouvé vraiment très convaincant, quoi. Donc après, je dirais pas que Brühl est plus impressionnant, je dirais qu'ils sont au même niveau, quoi. Alors après, c'est sûr que le film les aide beaucoup, hein, parce que comme je disais au début, il y a quand même le vide autour d'eux, hein, la comparaison est quand même difficile. Il y a 3-4 personnages qui ressortent et c'est tout, quoi.
Mais ce qui est même terrible, c'est que même dans la scène au Nürburgring où il y a cette réunion des pilotes, tu vois tout un tas de pilotes, tu peux même pas t'amuser en tant que fan de Formule 1 et essayer de reconnaître.
Bah oui, c'est sûr. En fait,
non, mais ça, c'est parce que tu étais au cinéma. Même... Quand t'auras le Blu-ray et que tu feras pause, crois-moi, tu chercheras.
Mais t'as même des mecs, tu te dis, mais à un moment donné, il y a un mec qui. Parce qu'il faut un vote à m'enlever, t'as un mec qui est dos à un mur, qui a facilement la carrière de Montoya, et tu te dis, mais il est là pour quoi? il est pilote, lui. Parce que, voilà, c'est vrai que t'as un vide. Après, c'est aussi pour souligner, encore une fois, on est dans un film dont le projet est de montrer un duel, une opposition de style. Et donc, on ne peut pas s'attarder avec autour à montrer le contexte. Tout ça, il faut vraiment élaguer pour ne garder que, c'est de la narration pure, mais ne garder vraiment que ce qui va aller dans le sens d'un duel, d'une confrontation de style. Ouais. Le reste autour n'existe pas. Voilà. Alors moi, j'ai juste une petite remarque à faire, parce que j'ai lu sur certains sites, oui. comme critique, pour pinailler, c'est pour pinailler. L'abus que ferait Ron Howard des plans sur les pistons qui bougent, les moteurs, les pneus et compagnie. Enfin, je voudrais juste rappeler à certains qu'il faut juste regarder Grand Prix.
Oui.
Dont les 3/4 des plans, c'est quasiment ça. Donc voilà, c'est aussi ça le charme de ce genre de film, c'est qu'à un moment donné, t'es obligé de montrer les pistons, de montrer la mécanique, comment ça fonctionne, pour rappeler aussi que c'est un sport de machine et que montrer aussi là quand tu vois une scène avec t'es dans le moteur, tu vois les pistons qui sont grands, c'est un moment dramatique, t'as une musique dramatique et c'est en grand écran, tu l'as en toute largeur et compagnie, c'est là t'es vraiment dans le cœur de la puissance d'une machine, t'es vraiment immergé dans le cœur du moteur et ça te montre aussi à quel point c'est des mecs qui sont effectivement sur des monstres, quoi. Donc ça aussi, cet intérêt-là, c'est pas juste, comme on peut voir dans d'autres films, des plans qui sont là juste pour décorer ou... Non, il y a un vrai rôle cinématographique dans ces plans-là, comme il y avait dans Grand Prix. Enfin, j'irais pas dire que Ron Howard a voulu faire un hommage, mais il y a sans doute une forme d'inspiration aussi sur ces plans-là.
Messieurs, je vous propose de quitter l'année 76. Je crois que là, on a bien parlé quand même du film. Hein. On vous oui. le répète, allez-y, sans problème. Je vous propose de parler, pas tellement de la saison 2013, mais plus beaucoup de 2014, forcément, hein, avec le calendrier provisoire. Hein
le 43e calendrier provisoire.
Le 48e calendrier provisoire.
Non, mais là, il a quand même l'air très, très, très provisoire. Hein, parce que.
Il y a des titres que.
Comment les équipes peuvent accepter.
Il y a des sites qui ont titré. Il y a des sites qui ont titré le calendrier provisoire 2014 officiel. Donc ils savaient pas trop.
Mais pour une fois, je trouve que c'est assez vrai. Il y a ce côté. Vous allez voir ce que vous allez voir. Il y aura plein de courses l'année prochaine. Non, mais. Enfin, c'est ce que j'ai mis quand j'ai fait mon top 5 de l'actu. J'ai dit bientôt il va y avoir plus de calendrier que de Grand Prix dans une saison, quoi.
Déjà au début, première question, est-ce que vous pensez qu'on va rester à 22 courses?
Non. Il y a quand même en deux semaines Monaco,
oui,
New York,
ça, voilà, il y a cet enchaînement là qui est
autant déjà, New York Canada à une semaine l'un l'autre, c'est pas gênant,
mais c'est même logique.
les trois week-ends de suite là, c'est même pour les journalistes, enfin à un moment donné c'est juste pas possible, quoi. J'ai lu le chiffre aujourd'hui, on est sur un coût estimé pour l'année prochaine de 800 euros le kilomètre. C'est-à-dire qu'il y a un coût qui est absolument énorme, quoi. Multiplier ça par le nombre de kilomètres que font les équipes dans l'année, on est à 800 euros le kilomètre. Et là, l'année prochaine, il y a quand même des délais à respecter qui vont augmenter les prix. Après, il faut reconnaître que c'est un calendrier qui est très difficile à faire, notamment parce qu'il y a les fameuses 4 séances d'essai après certains Grands Prix, qui font que, comme ça a lieu le mardi, le mercredi après un Grand Prix, tu peux pas mettre directement derrière je crois que c'est après Barcelone, t'es obligé de mettre 15 jours après Barcelone, puisqu'il y aura 2 journées d'essai après Barcelone. Donc là, tu peux pas avancer le Grand Prix Monaco, qui de toute façon a une date qui bouge rarement. Oui. Tu peux pas mettre le Grand Prix d'Autriche, parce que ça ferait le dimanche le Grand Prix, le mardi, le mercredi les essais, et le vendredi, tu reprends avec les essais libres du Grand Prix. C'est compliqué.
Non, mais par contre, on en avait parlé l'année dernière au moment des SAV d'or, où on avait déconné sur le fait qu'il y avait une semaine entre la Chine et Bahreïn, et il y avait 3 semaines entre la Malaisie et la Chine. Il y a quand même quelques... Qu'il y ait 22 courses, en soi, ça me choque pas. On dit toujours la limite, c'est à 20. Qu'est-ce qui me le prouve ? Je veux dire, moi, je sais pas si la limite, c'est à 20. On me dit la limite, c'est 20. Pourquoi pas 19 ? Pourquoi pas 21 ? Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, 22 courses, ça me choque pas. Ça fait une année longue quand même, c'est assez resserré. Mais le problème, c'est qu'on ne rationalise pas du tout les dates, quoi. Je veux dire, effectivement, alors le cas de Monaco, New York, Canada, c'est ce qui fait dire que c'est sans doute un calendrier qui est très très provisoire, parce qu'il y aura sans doute des disparitions ou au moins une réorganisation. Mais on peut pas continuer, je pense, à imposer des coûts aux équipes en les faisant aller à un point du globe pour revenir dans leur pénate, pour ensuite les renvoyer à quelques centaines de kilomètres de l'endroit où on était il y a 15 jours. À un moment, il faut quand même aussi être réaliste, il faudrait quand même arriver à rationaliser et ne plus créer des imbécilités comme le fait que 2 Grands Prix qui se déroulent en Asie vont avoir plusieurs semaines d'écart, alors qu'un Grand Prix qui se déroule au Moyen-Orient et un Grand Prix qui se déroule en Asie de l'Est se retrouvent avec une semaine d'écart.
Je crois qu'on a sur le calendrier provisoire, on a un Mexique, Abu Dhabi, Brésil. Ouais. Ou un Mexique, États-Unis, ou il y a un truc dans le genre.
Non, ça fait Abu Dhabi, États-Unis, Mexique, Brésil.
Ah, alors c'est.
Alors tu sais pas dire.
Là. On a un Singapour, Russie, Japon.
Oui, voilà.
Ouais, mais voilà. Enfin, je sais pas exactement où est Sochi, mais il me semble que c'est à l'ouest de la Russie.
C'est au bord de la mer Noire, au niveau de Montpellier.
C'est pour ça que il y a un truc qui me fait rire à chaque fois quand j'ai des commentaires. Ah, ils vont bien geler au mois de novembre. Oui, non, c'est vraiment le sud-sud.
Par contre, ils ont peut-être plein de flottes.
Ouais, mais c'est marrant. Non, mais je veux dire, il faudrait quand même arriver à rationaliser ce calendrier, quoi. Il y a des choses qui sont pas logiques. Et ce que je me demande maintenant, très franchement, c'est est-ce qu'on peut se permettre, si on veut faire autant de courses, est-ce qu'on peut se permettre une pause énorme au milieu de l'été?
Oui.
C'est ce que je me demande. Je dis pas qu'elle est pas nécessaire, hein. Encore une fois, c'est pas la question. C'est des hommes et tout comme les autres. Ils ont besoin aussi de moments pour se reposer. Mais est-ce que cette pause-là, elle crée pas aussi un problème, parce qu'elle coupe la fin de la saison européenne du reste de la saison européenne? Est-ce qu'il y aurait pas une pause à faire ailleurs, à un autre endroit, pour justement essayer de rapprocher les dates des continents les unes des autres, sur un même continent, et arriver à faire quelque quelque chose qui se tienne un peu, parce que là c'est quand même assez décousu quoi, quand tu regardes bien.
Et surtout, évidemment... voilà, c'est l'intérêt de cette pause, si derrière tu veux, à un moment donné, si tu donnes 4 ou 5 semaines de pause à des équipes que tu vas envoyer sur 3 circuits, on va traverser un océan en 15 jours, c'est juste à un moment donné tu marches la tête. Alors on peut quand même souligner qu'il y a des efforts qui ont été faits. On a la Malaisie et le Bahreïn qui vont faire qui vont être mélangés à une semaine d'intervalle. On a la Chine et la Corée aussi qui seront à une semaine d'intervalle. Mais quand on regarde le calendrier, on a quand même Australie, Malaisie, Bahreïn, Corée et Chine. Enfin, si vous voyez un peu la carte,
c'est Bahreïn, Chine, Corée et ensuite on vient en Europe.
Oui, enfin voilà, donc on fait des distances absolument incroyables quoi. Alors que pour le coup, enfin, on est quand même face à des circuits genre la Corée, tu prends une fléchette, tu vises le calendrier, tu t'es sûr qu'à ce moment-là, il y a rien de prévu sur le circuit parce que le circuit il sert quasiment que pour la Formule 1. Donc tu pourrais vraiment, je comprends qu'il y a des événements qui sont difficiles à décaler, le Grand Prix d'Angleterre par exemple, c'est toujours difficile, il y a un gros planning. En Espagne aussi, c'est un circuit qui est très utilisé. Monaco, c'est pareil. C'est traditionnellement l'un des derniers week-ends du mois de mai. Après, je pense quand même que tu peux essayer d'innover un peu et de mettre en place des choses différentes, ce qui est très difficile dans la mesure où aussi Bernie Ecclestone, dans ses négociations, joue aussi sur le positionnement durant la saison pour demander plus ou moins d'argent aux équipes. On le sait que c'est par exemple sur Bahreïn, c'est l'une des données aussi que voulait avec Bernie Ecclestone avec le Bahreïn, c'était les faire payer plus cher pour qu'ils soient en ouverture de la saison. Voilà, après c'est très difficile de réussir à caser des dates. Là, il y a 3 nouveaux grands prix. T'as vraiment l'impression, le Grand Prix d'Amérique, t'as vraiment l'impression qu'on s'est dit bon bah les gars,
faut le foutre quelque part.
faut le foutre
ouais,
quelque
non,
part.
Mais c'est ça. Par contre, je regarde sur le calendrier. Alors vous me dites si je me trompe, mais il me semble qu'il y a plus de pauses de 3 semaines.
Non.
Alors excepté la pause d'un mois
estivale.
Voilà, estivale. Il y aura plus jamais 3 semaines ouais, si on regarde sur le calendrier, il y a plus 3 semaines.
Non, il y en a plus.
Bah, ça va dépendre si la Corée est maintenue ou pas. Si la Corée est pas maintenue, il y aura 3 semaines entre
oui.
Ouais. Bah oui, enfin et encore, je sais pas parce que est-ce qu'il y aurait pas quelque chose à recaler du coup si on maintient les autres grands prix.
Bah après c'est à dire que ça va dépendre aussi du délai. Là je pense qu'on est déjà au mois de septembre. Il y a certains
octobre.
On est tout début octobre. On est le 1er octobre.
Oui. Fais chier pour octobre.
Rigueur, discipline.
On est le 1er octobre. Il y a quand même là le calendrier MotoGP aussi qui vient de sortir. Enfin voilà les calendriers pour les circuits ils sont déjà en train de faire leur calendrier de l'année prochaine. Mine de rien, on va arriver. C'est ça aussi la difficulté d'avoir, par exemple, un Grand Prix d'Amérique qui n'est pas garanti. Et depuis pas mal d'années, c'était le cas notamment avec la Corée, on laisse des délais, mais absolument. C'est incroyable. La Corée, on a fait l'inspection la veille du Grand Prix pour savoir si on faisait le Grand Prix ou pas. On devrait vraiment être sûr qu'un Grand Prix aura lieu 6 mois avant la fin de l'année. Dès le mois de juin, on aura dû le savoir.
Mais...
parce que là, on arrive quand même à une époque où les calendriers sont plus ou moins déjà établi et que si tu changes une date, ce qui avait été le cas l'an dernier notamment quand on a fait la date européenne qu'on a retiré et compagnie pour un Grand Prix, ça a dû faire des changements sur le festival de Goodwood. Enfin voilà, on arrive très vite à devoir composer avec les autres calendriers et d'autres impératifs, ce qui fait qu'on se retrouve avec un calendrier qui est encore provisoire au mois de décembre et que si jamais il y a une date qui saute, bah elle va sauter et elle va laisser un trou de 3 semaines à mois parce qu'on n'a pas d'autres solutions.
Là, de toute façon, je pense que par rapport à ce qui a été proposé, s'il y a des grands prix qui sautent, je pense qu'ils boucheront pas les trous. Hein. Je pense que là, on a quand même un calendrier qui est proche, peut-être pas à 100%, mais proche du calendrier qu'on aura l'an prochain.
Oui,
ouais.
Oui, c'est pour ça que provisoire, c'est un peu faible comme mot, quoi. C'est un calendrier qui est ratifié par le Conseil mondial, quoi. C'est pas non plus un calendrier dont on parle sur un coin de table dans un meeting informel.
Non, oui,
quoi.
Oui.
Techniquement, c'est le calendrier 2014.
C'est quasi définitif, on va dire.
Bah, il y a que 3 dates qui sont susceptibles de changer. Après, effectivement,
il y en a 4 qui sont précisées.
Ouais, 4.
4
confirmées. La Corée du Sud.
C'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'espoir pour la Corée, moi.
Mais la Corée, c'est chaque année que c'est à confirmer. À savoir s'ils ont jamais donné l'approbation au circuit officiellement, quoi.
Oui, il y a le New Jersey, Sochi en Russie et
j'ai oublié, par contre,
le Grand Prix d'Autriche, lui, il est confirmé. Hein. Il n'y a pas de souci.
Non, mais je pense qu'il y a un truc qui est à mon avis clair, c'est que la Russie et le Mexique, c'est quasiment acté. Parce que je veux dire, il n'y a pas de. Enfin, ça dans le calendrier, ça me paraît pas congru, quoi que si. Allez, Japon, Russie, oui, c'est un peu peut-être. C'est... Non, Russie, Japon. Je sais pas. Mais à mon avis, Mexique, c'est quasi fait, quoi. Parce que il y a beaucoup de temps entre les deux grands prix. Enfin, avant ce grand prix-là, il y a 2 semaines. Et après, c'est la logique, c'est le continent américain. Donc, bon, ça paraît pas incongru, quoi.
Il faut qu'ils réussissent les travaux quand même, hein. Il y a des travaux à faire.
Ouais, mais mais les travaux ont pas l'air énormes, quoi. C'est ce qu'on disait l'autre fois.
C'est ce qu'on nous vend, qu'il n'y a pas grand chose à faire. Si ça se trouve, il y aura une mauvaise surprise et il y aura beaucoup plus de travaux à faire.
C'est pas simplement une question de travaux, c'est aussi une question d'importance du Grand Prix. Le Mexique aujourd'hui, quand on voit l'argent qui est injecté en Formule 1 par le Mexique et quand on voit le potentiel, parce qu'il faut quand même rappeler que le Grand Prix des États-Unis l'année dernière, c'était la moitié des Mexicains qui venaient soutenir Sergio Pérez. Donc on comprend que c'est un événement important. Et s'il faut, je pense que la FIA sur ce coup-là, comme d'habitude, s'il faut faire l'impasse sur quelques détails et sur quelques tribunes qui sont pas parfaitement sécurisées, quelques normes, ils feront l'impasse. Ce qu'ils feront sans doute pas, par exemple, pour New Jersey, ou ce qu'ils feront sans doute pas, alors pour la Russie, il faudra voir, parce que je pense que la Russie, il y a aussi une donne politique.
Je crois que la Russie, c'est quand même plus ou moins sécurisé.
Je pense que la Russie, on aura vraiment confirmation qu'après les JO, parce que là, pour moi, en Russie, il y a tout tourne autour des JO.
Il faut déjà qu'ils construisent leur jeu.
Voilà. Puis il faut surtout, c'est même en termes de politique, il va falloir voir comment ça se passe. On oublie aussi que, avec la Russie, il y a notamment une donne géopolitique qui reste la Syrie, qui va quand même être un dossier pendant les 6 prochains mois qui va encore nous occuper, que là on part quand même de, on fait un peu de géopolitique, mais on part quand même donc du désarmement chimique de la Syrie, que ça sera pas avant le printemps 2014. On sait pas si d'ici là il y aura pas une intervention ou ce genre de choses. On sait pas si la Russie, quelle aura été la position de la Russie. Donc c'est un peu difficile aussi d'assurer l'avenir du Grand Prix de Russie. Je pense qu'aujourd'hui ils sont quand même très prudents, parce que il y a mine de rien quand même un contexte autour de la Russie qui fait qu'on n'est pas sûr, à la fois à l'intérieur comme à l'extérieur, de pouvoir tenir correctement un événement en Russie.
Donc pour vous, Hamid, ça bloquera 20.
Oui, il y aura 20 minimum.
Je crois que c'est le bon truc.
Oui. Parce qu'en plus.
Et il n'y a pas le Grand Prix d'Inde.
On est à 22 sans
le Grand Prix d'Inde. Ça veut dire qu'il faut déjà réfléchir au calendrier 2015.
Il va falloir foutre au chausse-pied le Grand Prix d'Inde quelque part.
Saison, sans doute à la place de la Corée.
Exactement. Parce que si la Corée survit à cette année.
Je pense que cette année, ils vont peut-être garder la Corée pour installer, pour fixer un peu le début de saison à 5 dates extra-européennes. Et qu'après, la Corée va dégager. Parce que, la Corée, personne n'en veut. Même la Corée, finalement.
Ils n'en veulent plus.
Oui, voilà.
Et où est-ce qu'on met le Grand Prix de France? ça pourra rentrer, vu ce que c'est en ce moment.
Non, puis 22, vous imaginez, en termes de finances pour les équipes, quand tu vois que des grosses équipes comme McLaren disent oui, s'il y en a plus de 20, va falloir peut-être envisager de doubler les équipes.
Mais à tel point que Boullier à ce cas-là, mieux vaut plutôt 30 que 20, quoi. Parce que comme ça on amortit une deuxième équipe de course. Et c'est mieux pour tout le monde.
C'est ça le truc, c'est que certes il y a plus de courses, il y a plus de retombées aussi, les primes de course et compagnie, c'est de l'argent qui rentre. Mais effectivement là on arrive, c'est pour ça que les équipes parlaient de 20 courses qui pour elles étaient le vraiment le maximum. C'est que au-delà de 20 courses, si tu fais 21 ou 22 courses, certes tu as un peu plus de rentrée d'argent, mais tu occasionnes des frais
supplémentaires. Ouais.
Enfin là on parle de, ça va sans doute être acté dans les prochains mois, d'augmenter le quota à 6 moteurs. Enfin,
des moteurs, voilà.
Plus sort l'année prochaine, un moteur c'est 2 millions d'euros. Enfin voilà, donc c'est pas un moteur à rajouter, c'est 2 moteurs parce qu'il y a 2 voitures. Donc c'est 4 millions d'euros. Pour Ferrari, Red Bull et compagnie, c'est pas un problème. Pour Marussia Caterham, 4 millions d'euros, ça commence déjà à faire un peu plus.
Ouais, mais enfin encore une fois, je pense que elles veulent dire dans le contexte actuel, c'est-à-dire dans le contexte où on fait un calendrier bizarre. Si on faisait quelque chose d'un peu plus rationnel avec des regroupements de grands prix, je suis pas sûr qu'elles pourraient pas s'y retrouver au final avec 22 courses. Quoi.
Mais est-ce que les déplacements, c'est les écuries qui les payent ? Parce que la FIA prend en charge une partie quand même. Il me semblait que ça faisait partie des frais qui étaient mis en commun du fait de l'augmentation des droits d'entrée au championnat.
Ouais, mais c'est pas juste le frais de transport, c'est-à-dire en gros l'avion. les avions cargo qui sont pris en compte.
Je pense que c'est ça, c'est que le matériel.
Il n'y a pas que ça.
Il y a tout un tas de frais annexes aussi.
Oui, les hôtels et tout ça, oui.
Mais enfin, faut être honnête, le vrai problème, c'est pas un problème de, c'est pas un problème. Je crois que c'est même McLaren, ils l'ont dit, c'est pas tant un problème de personnel ou de d'infrastructure. S'il faut faire une deuxième équipe, on fera une deuxième équipe. Ni de transport. Là, aujourd'hui, envoyer, enfin, chez McLaren, ils ont dit, aujourd'hui, les avions, les trains, les bateaux, ils tournent tout le temps. Enfin, tu charges, il s'en va et il suffit juste de décaler les dates et de bien s'organiser. Le vrai problème, c'est pour le coup, ce sont les hommes, c'est la fatigue, c'est des rythmes quand même qui sont assez dingues, quoi. Parce qu'il faut quand même penser que, par exemple, là, pour aller à Singapour, les équipes reviennent en Europe, ils se sont tapés quand même 13 heures d'avion. Et ils vont reprendre l'avion pour aller en Corée 10 jours après.
Ouais, enfin, non, mais.
Voilà, c'est quand tu penses que Mark Webber, qui s'en va, dit que lui, il a fait quasiment 300 jours dans l'année loin de chez lui.
Oui.
Là, c'est plus de 300 jours que les mecs vont être loin de chez eux, c'est 320, 340 jours. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si les équipes, c'était un calendrier à 20, 22, 23, même 25 courses, avec la moitié des courses européennes, là, ça ne les dérangerait pas, avec une grosse saison européenne bien dense, et puis là, des voyages en Asie ou les tournées. Mais là, le problème, c'est qu'on a quand même des tournées, la tournée de fin de saison de cette année, c'est quand même 3 mois, où tu peux quasiment pas retourner chez toi, mais en même temps, tu retournes quand même chez toi, parce que tu as quand même des développements à faire, et ça, tu peux les faire qu'à l'usine. Donc, c'est des frais en plus, quoi. Enfin, c'est...
Allez, une autre actu 2014, une confirmation, celle de Pirelli. Donc après des semaines de questionnements et tout.
C'est une confirmation du bout des lèvres. Ça sent vraiment la confirmation.
Oui.
Parce que c'est une confirmation.
C'était un peu caché.
Pour une période de transition. La FIA.
Oui, le texte de la FIA, oui, était. Oui.
Donc c'est clairement dire, c'est clairement quand on lit le communiqué, c'est nous, on ne veut pas de Pirelli. Maintenant, Pirelli a des accords commerciaux avec la F1. Et on est un peu prisonnier. Mais on les garde juste pour une période de transition afin de trouver un autre manufacturier dans les
pays. Parce qu'il rappelle bien que c'est la FIA qui décide, qui a la prérogative sur le choix de la marque de pneus. Ça, histoire de bien dire à la FOM, c'est pas vous qui décidez. Et en effet, c'est vrai que le côté transition laisse imaginer qu'il pourrait faire un appel d'offres, à la limite dès l'an prochain.
C'est pour ça que c'est étonnant les rumeurs qu'on a en ce moment de signature jusqu'en 2018. Enfin, ça tient pas.
Ça, c'est peut-être les contrats commerciaux qu'ils ont avec les équipes. Ça avait été dit en effet qu'ils avaient des contrats déjà pluriannuels sur une assez longue durée. Mais il n'est pas impossible que la FIA, en effet, fasse un appel d'offres l'an prochain. Avec ce côté, en effet, comme ils ont dit, de transition.
Bon, mais c'est pas ça aussi. Il y a un léger changement dans la manière dont c'est fait. C'est-à-dire que la FIA reprend la main sur les appels d'offres, non? C'est pas ça?
Ça fait partie des dispositions des nouveaux accords Concorde qui ont été signés.
Ouais, c'est ça. Et c'est par contre la FOM qui négocie avec celui qui est choisi, si j'ai bien compris.
Ouais.
Donc, là, il y a une volonté de pas se retrouver dans la même situation. Alors effectivement, si j'étais Pirelli, ça ferait drôle. Je veux plus me retrouver dans cette situation. Ah bah c'est nous. Bon.
La confirmation de Pirelli, elle est pas une surprise. C'est pas une surprise quoi. C'est...
Non.
C'était obligé. C'était quasi obligatoire. Il y avait personne de prêt concrètement et Pirelli avait déjà commencé à travailler sur 2014.
Oui, c'est de toute façon, on en parle depuis quelque temps. Je veux dire, à peu près depuis qu'on se dit que de toute façon personne pourra faire de pneus pour 2014. De toute façon, ça sera par défaut. Alors après, la durée de la période transitoire. Enfin, en général, une période transitoire, quand on en parle, c'est qu'on veut pas qu'il dure, par définition. Donc, c'est vrai que quand on entend que Pirelli aurait des accords jusqu'en 2018. Me paraît pas très transitoire quoi.
Mais après ça veut pas dire que la FIA reprenne le processus de choix du manufacturier en main, ça veut pas dire qu'elle ne veut pas, ça veut pas forcément dire qu'elle veut pas de
Pirelli. Non.
Ça veut dire qu'elle veut
pas que ça fonctionne de cette manière.
Elle veut mettre davantage en concurrence les divers entrants de l'appel d'offres et comparer elle-même c'est pas tant contre Pirelli que c'était dirigé quoi. C'était dirigé contre la façon dont la FOM avait négocié un peu derrière le dos de la FIA, ses contrats. Et les écuries aussi, d'ailleurs.
Et ça va même plus loin, parce que dans le communiqué, il parle non seulement du fournisseur de pneus unique, mais aussi du fournisseur, enfin du pétrolier, du fournisseur
pétrolier. En carburant.
Là où on a aujourd'hui chaque équipe a son partenaire, qui en plus est un sponsor. On a Ferrari avec Shell, on a Petronas et compagnie. Même si c'est pas toujours systématique, on peut avoir des sponsors pétroliers.
Voilà, c'est ça.
Il y a quelques années, on avait un sponsor pétrolier, puis en fait l'écurie utilisait un autre carburant. De la même manière qu'on a aussi des marques de freins qui sponsorisent les équipes, mais en fait les équipes équipes sont plutôt libres dans le choix des freins. Mais voilà, il y a quand même aussi la volonté de la FIA derrière, encore une fois, pour réduire les coûts, d'imposer un fournisseur unique. Et là, encore une fois, ça a aussi un volet commercial. Et on se demande comment la FIA va réussir à imposer ses vues. C'est bien aujourd'hui de revendiquer ce droit et d'avoir obtenu ce droit de la part de la FOM en même temps qu'un petit chèque de 200 millions d'euros. Maintenant, j'ai quand même beaucoup de mal à voir comment la FIA va réussir à imposer aux équipes un fournisseur unique de carburant ou va réussir à lutter contre la FOM, dont elle sera quand même, elle sera co-actionnaire de la F1 à hauteur de 1%. Enfin voilà, dans les accords Concorde, quand même, la FIA va représenter 1% de la F1. Si la F1 entre en bourse, la FIA c'est 1%. C'est juste, tu te dis comment est-ce que la FIA peut aujourd'hui lutter, même avec les accords Concorde, peut lutter face à la puissance commerciale de la FOM et des équipes. Enfin, on se prépare avec ça, on se prépare à une petite crise d'autorité de la FIA et à un nouveau braquage de la part des équipes qui vont pas vouloir. Aujourd'hui, on leur a donné des droits et ces droits, je suis pas sûr que les équipes, notamment en matière commerciaux, je suis pas sûr que les équipes se laissent aussi facilement faire que ce que projette plus ou moins de faire la FIA.
Puis surtout là, il y a quasiment autant de pétroliers que de curie de F1. C'est quand même beaucoup de contrats qui sont longs.
Moteurs. Il y a autant de pétroliers que de moteurs.
Ah. Oui, c'est vrai.
Il y en a 4. Il y en aura 3 l'année prochaine. On verra avec Shell. Qui. C'est Shell, ExxonMobil, Total. Et avec Cosworth, je crois que c'est BP Castrol. Enfin, c'est, il me semble. J'ai plus le truc en tête, mais il me semble que c'est ça. Cosworth s'en va l'année prochaine et Honda revient en 2015. Honda, il me semble que.
Tu veux dire que Mercedes, il roule pas en Petronas?
Ah non, il roule pas en Petronas. Petronas, c'est juste un sponsor. C'est pareil, Cepsa chez Toro Rosso, c'est un sponsor.
Donc eux, ça ferait partie justement des pétroliers qui seraient peut-être les moins embêtés, puisque si pour le coup c'est déjà uniquement des sponsors, s'il y a un pétrolier unique, à la limite eux ils s'en foutent.
Bah tiens qu'après on est toujours dans le même problème de Pirelli. Pirelli ils ont des accords commerciaux. On aurait très bien pu imposer un autre choix de pneumatique. Le problème c'est est-ce que un pneumaticien va accepter de vendre ses produits en ayant partout le nom du pétrolier, le nom de Pirelli affiché. Le pétrolier c'est pareil. Si t'as un pétrolier qui a que dalle et que tout le monde s'affiche sous Petronas, logo Total et compagnie, ils ont strictement rien à voir à perdre parce qu'après tout ils perdent un client, mais en termes d'image ils sont toujours là. Leur marque est toujours associée et dans l'esprit du consommateur, ce sera toujours on imaginera toujours que c'est l'essence Total qui est dans la Lotus, que c'est l'essence Cepsa qui est dans la Toro Rosso. Mais le problème, c'est qui va accepter d'être le fournisseur unique en n'ayant aucune retombée commerciale. Enfin voilà. Après, donc, il y aura forcément un accord commercial.
Moi, je me souviens de l'histoire de la NASCAR quand ça s'est appelé Nextel Cup, la première division. Il y avait d'autres concurrents qui étaient sponsors des écuries. Et dans les accords entre la NASCAR et Nextel, c'était indiqué que à partir de telle année, les sponsors concurrents étaient complètement interdits. Ça avait touché une des équipes, il me semble.
Là, en ce moment, c'est Sprint, donc une société de télécommunications, et il y a une équipe qui était sponsorisée par AT&T, qui est une autre société de communication.
C'est ça, parce que Sprint, c'est Nextel qui a été renommé.
Oui.
Ils font des pubs sur la piste, en incrustation.
Oh,
ouais. ça va vous plaire, je sens.
Carrément. Mais si, en attendant la suite des actus, parce qu'il y a encore plein d'actus à citer, comme ça fait déjà plus d'une bonne heure qu'on discute, je vous propose la pause musicale habituelle, pit stop.
J'aime bien ce doux euphémisme, la pause musicale. En gros, on va aller pisser, hein, soyons honnêtes.
Oui, parce que c'est plus classe que de dire que c'est la pause pipi, tu comprends.
Parce que bon, là, Chidi nous a dit, attention, là, la pause musicale risque de rester, faudra peut-être la laisser au montage, parce que généralement, nous, ça, on vous le coupe. Là, ça risque de rester, donc faut être honnête, hein, c'est le moment où on va aux toilettes.
Faut le dire, hein, voilà, parce que là, a priori, on va la laisser. À ceux qui nous écoutent en différé, habituellement, en live, il y a une petite pause, pour la pause. Hein. Et messieurs, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous connaissez Hold Olaf?
Oui, bien sûr, la tristitude.
Ah, donc... Tu connais la tristitude, Fab?
Bien sûr. Bon. Très bon,
Dino, la tristitude. Dino, est-ce que tu connais la tristitude?
Non.
Ah, c'est dommage, tu rates quelque chose. Mais j'ai envie de dire à Fab, et j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, qui connaissent la tristitude, oui, vous connaissez la tristitude. Mais connaissez-vous la tristitude?
Je crois qu'il va falloir qu'on arrête de donner la sélection.
Ah oui, ouais, parce qu'il y a la tristitude et il y a la tristitude, effectivement.
Tout
oui.
à fait.
Oui, oui, oui. Mais... Et encore, c'est pas ma version préférée. Ma version préférée, ça reste la tristitude. Hein.
Écoutez, ouais. je n'en rajouterai pas plus et je vous retrouve dans un peu moins de 4 minutes.
La tristitude, c'est être le bras droit de Robert Kubica. Ceci n'est qu'un cinquième pilote chez Marussia. C'est perdre le Playboy où on voit Tamara. Et ça fait mal, la tristitude. C'est être 4/10 derrière Max Chilton. C'est de ramener ta voiture en petit bout de carbone. C'est être follower de Lewis Hamilton. Et ça c'est chien. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi. C'est un peu de détresse dans le creux de nos voix. La tristitude, c'est c'est nous, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. Tristitude, c'est être sponsorisé par les voitures Lada. C'est Schumacher qui monte à cheval sur son Dada. C'est faire un barbecue avec Niki Leda. Et ça brûle bien, la tristitude. C'est faire 8 secondes d'arrêt et repartir sans écrou. C'est voir au mal aux gens se coller à tes roues. C'est Bernie qui t'accoste quand tu lui dois des sous. Et ça fait mal, la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi. C'est un peu de détresse dans le creux de nos voix. La tristitude, c'est c'est nous, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. La tristitude, c'est lire Martin Whitmarsh quand il parle en anglais. C'est être seul à regarder le Grand Prix de Corée. C'est quand tu vois le ciel et le sol s'inverser. Ça va faire mal, la tristitude. C'est quand tu supportes McLaren en Italie. C'est quand tu es deuxième pilote chez Ferrari. C'est quand t'as les Iganis que tu loupes le Grand Prix. Et c'est fini, 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 la tristitude. C'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi. C'est un peu de détresse dans le creux de nos voix. La tristitude, c'est c'est ouh, c'est un, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. Non, 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 la tristitude. La tristitude. La tristitude te donne la tristitude. La tristitude.
Alors Gus Gus, j'aimerais savoir, est-ce que c'est l'album de la maturité?
Je crois qu'on peut le dire, oui. Je crois que
Est-ce que tu as fait la chorégraphie faciale en même temps que tu chantais?
Non. Par contre, je me suis exilé en Patagonie avec Florent Pagny pour écrire et je pense qu'effectivement, oui, c'est la maturité, c'est tout ce que... j'ai tout mis dans cet album. J'ai tout mis de moi.
Respect.
Respect. Voilà. Oh, on vous mettra bien lien avec le MP3, soit sur le site ou peut-être même directement sur l'article de l'émission.
Ah non, on va laisser la surprise si on met dans l'article.
C'est vrai, t'as raison.
On vous donnera un lien sur l'article de la prochaine émission. La règle du spoil, Shinji, rappelons.
Je vous avais dit que ce serait une pause musicale exceptionnelle.
Oui, mais du coup, on n'a pas pu aller faire pipi.
Ah, oui, c'est vrai.
Faut trouver des subtils. Perfuge, mon petit gars.
Oui, mais moi, on me prévient pas avant. Moi, j'arrive, je crois que c'est une vraie chanson.
Je t'ai dit, c'est exceptionnel. Fallait s'en douter, quoi. Allez, on va reprendre les actualités. Et là encore, on va évoquer 2014 avec peut-être une année de retour. Hein, avec, voilà, la nouvelle de l'année, peut-être du siècle, allez savoir. peut-être que Rubens est de retour.
Mais ça vient d'où? Enfin, à un moment donné, j'aimerais juste qu'on nous cite des sources autres que Rubens Barrichello. C'est, ça vient d'où? C'est Rubens, on lui dit, tiens, tu rouleras peut-être au Brésil. Il dit, ah, qui sait? Et ça, ça fait une news. Non, mais... Rubens, tu lui dirais, Rubens, tu roules sans slip? Il dirait, qui sait?
Ouais. C'est plus rare, hein, comme question.
Moi, j'y crois pas du tout.
Moi non plus, j'y crois pas. Déjà, il y a plus jeune, je vais dire, sur le marché. Faudrait vraiment qu'il soit désespéré chez Sauber pour qu'il reprenne Barrichello.
Ouais, c'est méchant. C'est surtout être très très méchant envers Massa. C'est genre, on va déterrer le vieux parce qu'il y a un Brésilien qui est en Formule 1, mais il est pas assez compétitif. On va préférer prendre le quadragénaire.
Sinon, on a aussi évoqué Petrov et peut-être encore plus Kovalainen qui préfère son retour chez Caterham.
Ça coule un peu plus de source déjà.
Oui.
Bah, Petrov, il aurait trouvé quelque chose comme 25 millions d'euros de sponsors.
Une paille.
Même si apparemment, depuis quelques heures, on essaie de minimiser un peu l'étendue du soutien financier. Mais
bon, c'est pas bon signe, ça.
La perspective du Grand Prix de Russie, voilà. Après, c'est pour aller où? Si c'est pour aller chez Marussia, 25 millions, c'est quand même très cher. et puis, Kovalainen, là, c'est... Kovalainen lui payera pas.
Non, ça c'est sûr.
Il faut juste trouver de l'argent. Et encore une fois, du côté de Caterham, on est un peu aussi gêné parce qu'on a quand même deux pilotes qui, eux, rapportent du pognon et que ça va quand même grandement dépendre de la place de Caterham à la fin du championnat.
Oui.
Voilà, si Caterham reste 11e, parce que quand même, précisons quand même qu'il y a eu les accords Concorde, donc ça y est, Marussia aura un accord. Hein.
Oui, c'est vrai.
Même s'il finit 11e, il y aura un accord. On sent quand même un peu que c'est la proposition qui a été faite en se disant bon, ça se trouve, c'est Caterham qui va finir 11e. Et là, ils sont marrants. Donc voilà, ça va beaucoup dépendre de ça. Après, sincèrement, Kovalainen chez Caterham, enfin.
C'est plus une progression, quoi. Lui qui voulait remonter vers Sauber, Ferrari, il sera là, mais il sera là pour être là un peu. C'est un peu ce qu'on reproche à Barrichello, c'est de s'accrocher un peu au rocher comme le fait une huître, quoi, ou une moule. Mais pour quel débouché derrière, il est plus tout jeune, Kovalainen. Enfin, il remontera jamais dans les top teams, quoi.
Ouais, puis il est déjà là parce que ils ont pas pu s'en séparer. Et c'est pas forcément de gaieté de cœur qu'il est resté et qu'ils l'ont gardé.
Ils l'ont gardé, je pense, de gaieté de cœur. Parce que ça reste malgré tout un pilote d'expérience. Maintenant, lui, clairement, il voulait aller ailleurs. Et c'est lui qui se contente de Marussia plus que Marussia qui se contente de Kovalainen.
Après, je rejoins Gus Gus, quoi. Enfin, c'est-à-dire, on tape sur Barrichello, mais ça fait. Tu me diras que Kovalainen a été quand même toujours assez clair. Hein. Il a dit, moi, je ne paierai pas. De toute façon, il est aussi conscient du fait qu'il n'aura jamais beaucoup de soutien. C'est assez malheureux parce qu'il aurait peut-être mérité une chance. Mais encore une fois...
Je sais pas, moi, qu'il aille s'amuser, qu'il fasse du DTM,
ouais,
qu'il fasse
de l'endurance. Ouais, non, mais c'est ça. Il dirait qu'il est prisonnier de la F1, quoi.
Il y a plein de baquets ailleurs, en IndyCar. Je veux dire, voir un Kovalainen en IndyCar, ce serait intéressant, quoi. Enfin...
Ouais, surtout que moi, je persiste ici, mais c'est un super pilote. Et moi, personnellement, c'est un des pilotes que j'apprécie le plus. Ça m'embête. J'aimerais bien qu'il revienne en Formule 1, mais je cours pas non plus après. Ça m'embête surtout de voir que cette année, il a rien fait d'autre, quoi. Il y a aucun championnat, il y a rien, quoi. Il se contente de séances d'essais libres. Bon, il est à disposition de Caterham, mais moi, ça me dérange un peu quand on est un pilote qui a ce talent-là. Moi, je me rappelle avoir vu au Stade de France, à Paris, et avoir été vraiment émerveillé par le pilotage de ce mec-là. Je pense qu'il a pas pu montrer tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qu'il était capable de faire en Formule 1, sauf chez Caterham sur la fin où il a fait des très très belles choses, mais avec une voiture qui lui permettait pas d'être visible. Voilà, aujourd'hui, il a rien d'autre à faire en Formule 1. Si c'est pour rester chez Caterham, autant qu'il aille en DTM, qu'il aille en IndyCar, justement montrer ce qu'il vaut, parce que mine de rien, on n'a pas encore véritablement vu ce qu'il valait vraiment. Et moi, ça m'embête un peu, quoi.
Très bien. Et en dernière actu pour cette émission cette semaine, là cette fois-ci, c'est pas 1976, c'est pas 2014, c'est une actu 2013.
Waouh ! Qui nous vient de quelle année cette année ?
qui vient d'Italie, d'Autosprint et de Giancarlo Minardi. Hein.
Ah, oh, oui.
La rumeur, ça faisait longtemps, j'ai envie de dire, c'est pas la première fois non plus qu'on dit des choses sur Red Bull. Voilà, qui aurait dit que la Red Bull, elle était pas légale. Alors,
ah non, non, attention.
Ah,
attention.
Pas Autosprint.
Non, non, pas Autosprint. Et même Minardi, oui. Minardi, il a oui, pas dit oui. que la voiture non. n'était pas légale, il a dit qu'il se posait des questions et que il imaginait que peut-être ils avaient réussi à trouver une solution, une sorte d'anti-patinage. Après, qui dit anti-patinage, dit, enfin, il y a l'anti-patinage qui n'est pas légal. Maintenant, si tu arrives à reproduire l'effet en restant légal, ça reste un système légal.
Une cartographie particulière du moteur.
Oui, je pense que exemple. Autosprint est beaucoup plus proche de la vérité que Minardi, parce que Minardi, quand même, dans l'affaire, nous dit que lui, il a vu la Red Bull accélérer 50 mètres avant les autres. 50 mètres, je sais pas s'il voit ce que ça se fait, 50 mètres. Mais 50 ouais. mètres, c'est, vous savez, au bord à Singapour, il y a le terrain de football flottant. Un terrain de football, ça fait 100 mètres, quoi, grosso modo. Donc, c'est la moitié
du terrain de football. Il a réaccéléré dans le virage, quoi.
Et quand tu vois, mais voilà, quand tu vois la moitié du terrain de football, mais c'est plus du tiers que de la ligne droite à cet endroit-là. Donc, il faut pas non plus dire n'importe quoi.
Et le
quoi.
Pire, c'est qu'il y en a qui ont montré une vidéo qui a été prise par un spectateur à l'endroit, donc c'est au troisième virage de la réaccélération. Où on entend le moteur de la Red Bull et on dit ouais, il y a une différence par rapport aux autres moteurs. Sauf en passant totalement sous silence, c'est que la Red Bull à ce moment-là a quasiment 5 secondes d'avance, donc quand elle passe, elle est toute seule.
Oui.
On entend effectivement un petit tac-tac à la réaccélération, là où les autres, elles passent à la queue. Enfin, on entend, enfin, tu peux pas entendre la spécificité du moteur ou le.
Non, on peut pas comparer. On peut pas comparer. Par contre, on entend bien le bruit d'échappement soufflé qu'on entendait à l'époque en 2011, très clairement. Le petit bruit rose. Du moteur à la réaccélération. Pas pendant tout le truc, mais quand par exemple, c'est au moment où il réaccélère un petit peu, au milieu du virage, une fois qu'il est au point de corde, il réaccélère un petit peu et c'est là qu'on entend pendant une demi-seconde le similier bruit de soufflage.
Je précise parce que Mike Patton me corrige sur le chat, j'ai dit la Red Bull, il ne cite que la voiture de Vettel.
Mais c'est pareil, on a entendu la voiture de Vettel isolée pendant le Grand Prix et pendant le week-end, mais celle de Weber, elle était toujours accompagnée pendant la course. Parce qu'en fait, le truc, c'est que pendant les qualifs, ce bruit rauque en caméra embarquée dans le tour de la pole de Vettel, on l'entend pas. A priori, s'il y a un système un peu spécifique que des Red Bull a déployé, ils l'ont fait pendant la course. Et effectivement, s'ils l'ont fait que pendant la course, sur la voiture de Weber, c'est difficile de l'entendre parce qu'il est toujours derrière une autre voiture de par la configuration de sa course, quoi.
Alors après, ça rejoint quand même une autre information qu'avait fuité au Grand Prix du Canada après l'accrochage de Weber avec Van der Garde, où il y avait eu les fameuses traces de pneus. On avait dit ils ont un système anti-patinage.
Ouais, mais c'est pas la même
chose.
C'est
vrai. Du coup. Non, c'est, même s'il y a pas de raison, c'est vrai que ça fait quand même deux fois qu'on a des témoignages qui disent il y a quelque chose de bizarre et que effectivement, je pense que ça amène tout simplement à s'intéresser sur quel est le secret de cette Red Bull qui effectivement, enfin là on l'a vu à Singapour, mais une pile. Après, c'est même pas une question pour moi, c'est même pas une question de légalité et je pense que c'est aussi l'intention derrière de Minardi, c'est qu'il dit sur le site italien sur Omnicorse, il dit voilà, moi j'aimerais juste savoir ce que c'est, parce que je pense que c'est avant tout une curiosité qu'on a, c'est avant même de parler d'illégalité de la voiture et de mettre en doute la solution qui a peut-être été trouvée, c'est se dire mais qu'est-ce qu'ils ont réussi à trouver encore pour donner à Singapour deux secondes d'avantage à la voiture de Vettel, quoi.
Même si cet avantage est
complètement, enfin pour moi il est très. Il n'y a pas véritablement deux secondes.
Le problème, tu le connais, c'est qu'il y a des médias un peu scrupuleux qui, du coup, sautent sur ce genre de déclarations pour faire des raccourcis, quoi. C'est, la Red Bull n'est pas légale, des soupçons de Minardi et d'Autosprint, alors qu'ils disent pas foncièrement grand chose, ils accusent pas, surtout Autosprint, quoi. Autosprint dit, à notre avis, il y a tel système, mais il y a jamais, dans l'article, alors je parle pas italien, mais quand même, la traduction de Google, elle est assez claire et assez limpide pour qu'on puisse comprendre l'article. À aucun moment, Autosprint part de système illégal, si ce n'est même le contraire. Voilà.
Et même sur Omnicorse, là où Minardi a manifesté ses doutes, même sur Omnicorse, information qui, encore une fois, n'est pas reprise par les autres médias, notamment britanniques, on n'a retenu que les déclarations de Minardi sur les sites britanniques. On n'a pas retenu le dernier paragraphe qui est publié sur Omnicorse en disant voilà ce qu'oublie comme hypothèse Giancarlo Minardi sur les raisons de ce bruit et ils font une liste des différentes raisons qui peuvent expliquer ce bruit. Et voilà, pour le coup, on peut pas accuser les médias italiens parce que les deux médias sont plutôt mesurés dans ce qu'ils disent. Ce sont les médias qui reprennent ces informations-là, les Britanniques, les Français, les Allemands et compagnie, qui ne retiennent que le, encore une fois, c'est toujours pareil, que le côté le plus sensationnel de la chose et qui manque un peu d'analyse derrière.
Mais c'est exactement ce qu'on avait dit en plus sur le truc au Canada, quoi.
Avec les traces.
On en revient au même. D'ailleurs, les traces, j'ai vu récemment, enfin pendant un Grand Prix récemment, une voiture qui sortait des stands et ça avait laissé des traces dans les stands, mais c'est exactement les mêmes que celles qu'on voyait sur la Red Bull, quoi. Je veux dire, c'est pas des traces qui sont anormales finalement. Les traces qu'avait laissé la Red Bull au Canada. Enfin, ça fait des traces discontinues. Je sais pas pourquoi, mais ça faisait des traces discontinues aussi. Donc, si ça se trouve, il y a pas que la Red Bull qui est illégale.
Mais de toute façon, ils flirtent tous avec la légalité.
Bien sûr.
Oui, c'est vraiment qu'on est dans un sport où il faut flirter avec la légalité. Et c'est, moi, c'est surtout ce qui m'interpelle dans cette histoire-là, c'est qu'est-ce qu'il a trouvé. Enfin, on s'est tous posé des questions après le Grand Prix de Singapour. Voilà, comment cette voiture, comment Vettel a pu faire ce qu'il a fait. Certes, il y a le talent de Vettel, il y a aussi la force de la voiture. Et voilà, qu'est-ce qu'elle a de secret, cette voiture. Et enfin, on peut dire c'est New Way, mais on a encore envie de dire qu'est-ce qu'il a encore trouvé New Way sur cette fin de saison pour donner un tel avantage à cette voiture.
Très bien, messieurs, je vous propose de passer aux citations.
Ouais.
Yes.
Qui veut commencer?
Allez, j'y vais. Une citation de Stefano Domenicali qui nous dit que c'est comme jouer au basket avec une main dans le dos. Vous pouvez le faire pour vous entraîner, mais quand vous devez jouer, c'est mieux d'utiliser deux mains. C'est par rapport à la rouverture de la soufflerie de Ferrari qui va intervenir à la fin du mois. C'est pour souligner que Domenicali, lui, considère que la remise en marche de la soufflerie, elle va permettre de réduire l'écart avec Red Bull. Affaire à suivre, quoi. Il dit que ça faisait 2 ans que Ferrari se traîne des problèmes de corrélation entre la soufflerie et la piste. C'est peut-être même plus, quoi, parce que si on regarde la voiture de 2009, elle était déjà pas réussie. Alors il y a aussi le fait du changement de règlement, mais voilà.
Même cette année, ils ont encore eu des problèmes de soufflerie alors qu'ils utilisent celle de Cologne.
Oui.
Donc, je pense que c'est tout simplement un problème de compétence dans l'interprétation de la soufflerie. Enfin, il y a quelque chose qui ils ont un truc qu'ils comprennent pas dans les souffleries en général.
Oui.
Là, ils disent que c'est Tambazis qui a expliqué que le problème c'était la qualité du flux d'air. Oui, mais théoriquement, à Cologne, le flux d'air il est meilleur. Vous avez utilisé celle de Cologne et vous avez quand même réussi à faire des mauvaises innovations cette année. Donc il y a quand même un problème.
Il y a un moment, le problème est peut-être plus dans la soufflerie là.
D'ailleurs,
on verra ça.
D'ailleurs, comme on est sur les problèmes de Ferrari cette saison, j'ai aussi une citation de Ferrari qui est de Nicolas Tombazis justement, et qui a déclaré « Il serait quelque peu superficiel de blâmer les pneus comme étant la seule raison de notre baisse de performance. Nous avons aussi apporté des développements qui n'ont pas été aussi bons et n'ont pas fonctionné. Ça tranche quelque peu avec les déclarations d'Alonso à Singapour, qui avait déclaré clairement pour lui qu'il avait dit au revoir au titre avec le changement de pneus en cours de saison, qui était arrivé juste après le Grand Prix de Grande-Bretagne. À Silverstone. Donc voilà, il y a quand même un discours chez Ferrari qui dit oui, il y a les pneus, mais surtout on a un peu pataugé dans la semoule. Là où Alonso, peut-être un peu prudent, vous mettez tous les torts sur Pirelli.
Pour ma part, j'ai une citation de David Ward, car oui, David Ward a fait une proposition pour sa candidature.
Non, il en a plein, sincèrement, c'est injuste, il en a plein.
Ouais. Mais il a cité le fameux cas de Bahreïn, hein, qui quand même, et tous les ans, on se pose des questions sur est-ce qu'il faut y aller ou pas. Et bien, pour David Ward, lui, il a peut-être trouvé la solution pour enlever des grands prix au calendrier, hein, puisqu'il a dit, si la situation se détériore ou ne s'améliore pas, ce qu'il devrait y avoir au sein de la FIA, parce que cela pourrait se produire demain dans une autre partie du monde, c'est un processus standard pour gérer cela qui est immunisé contre les suggestions selon lesquelles un pays est traité différemment d'un autre. En gros, de ne pas considérer forcément le pays comme un cas particulier pour pas froisser le pays, hein, honnêtement, c'est comme ça, mais une procédure standard pour dire voilà que s'il y a des soucis, eh ben oui, on annule le Grand Prix parce qu'il dit que par le passé, en gros, Jean Todt n'a pas su prendre des décisions fermes à ce sujet.
Est-ce qu'il n'a pas besoin de l'accord de la FOM pour annuler un Grand Prix?
Ouais, non, mais c'est ça, il y a des contrats quand même derrière.
Oui, il y a des contrats.
Ouais, puis enfin, on sent quand même dans la déclaration que c'est quand même très. Enfin, heureusement que tu me l'as expliqué, Shinji, parce que.
Moi, oui, l'idée de la proposition, c'est de créer une espèce de processus standardisé pour annuler un Grand Prix, quoi.
C'est clairement, on dira pas, on n'enverra pas chier un Grand Prix, mais on mettra en place des procédures qui devront s'appliquer.
À tout le monde, histoire de pas français, de français.
Oui, non, mais j'ai la solution. Je sais ce qui. Non, est-ce qu'il aurait été vraiment courageux, c'est de dire non, moi, président. Moi, président, nous n'irons pas au Bahreïn. Je m'y opposerai. Et même si on y va, je ferai savoir que la voie de la FIA, la position de la FIA, c'est de ne pas aller dans ce pays-là. Voilà. Et puis, si la FIA retire son. Après, effectivement, il y a des questions de droit. Mais si la FIA a vraiment des couilles et qu'à un moment donné, par exemple, elle dit bah voilà, nous, sur ce Grand Prix-là, bah, on n'ira pas. Nous, la FIA, on boycotte cet événement. Comment tu veux que le Grand Prix soit tenu s'il n'y a pas de commissaire FIA, s'il n'y a pas si elle n'est pas dans les comptes de la FIA, elle peut même pas intégrer le championnat du monde. Donc, certes, il y a des accords commerciaux, mais la FIA a quand même le pouvoir, s'ils ont des couilles, a quand même le pouvoir de dire on y va ou on n'y va pas. Je pense pas que Ward aura plus de couilles que Jean Todt à ce niveau-là.
Oui.
Ça manque d'anaphore dans cette campagne.
Mais il a quand même, là, il a envoyé une lettre aux différents
présidents de clubs et d'associations sportives nationales.
Quand même assez chargé. Il critique notamment le fait que, contrairement notamment au CIO, où on peut avoir pléthore de candidats, qu'en Formule 1, on ne puisse avoir que dans la FIA, on ne puisse avoir que 3 candidats. Et aussi qu'il y a apparemment des accords, des soutiens qui ont été signés lors d'une réunion en début d'année et que, si je ne me trompe pas, c'est 13 des 14 personnes qui ont le pouvoir de désigner les candidats ou je sais plus qui ont déjà soutenu Jean Todt et dit qu'il voterait Jean Todt, donc en fait il en reste qu'un et que c'est le Salvador en fait qui va décider si on peut avoir d'autres candidats ou pas. Enfin voilà, c'est assez nébuleux, donc il appelle.
Est-ce qu'il y a des courses automobiles au Salvador, quoi? Déjà faudrait savoir ça.
Mais c'est voilà, c'est il y a aussi ce qu'il a proposé, c'est que il a dit que lui ne serait pas président de la FIA de la F1, mais que il nommerait un délégué spécial pour la Formule 1, qui lui serait véritablement chargé de la F1, et que lui, il chapeauterait la FIA et toutes les missions. C'est déjà un peu ce que fait Jean Todt, sans la fonction officielle de délégué de la FIA à la F1.
Il n'y a personne.
Pourquoi pas institutionnaliser une usine à gaz? C'est une bonne idée.
Oui. Sinon,
Donc ma citation, c'est Ross Brawn qui dit « J'aime que les résultats oscillent régulièrement d'un côté à l'autre, en parlant des pilotes, ça évite d'avoir une faiblesse dans l'équipe. » Moi, j'ai presque envie de dire, je trouve que c'est complètement con de dire ça, parce que si les résultats oscillent d'un pilote à l'autre, justement, il y a une grosse faiblesse dans l'équipe. C'est qu'il n'y a personne qui est assez régulier pour jouer quelque chose sur le long terme. Donc je trouve cette déclaration très politiquement correcte.
Ouais, puis c'est rigolo que ce soit Ross Brawn qui disent ça, quoi.
Oh, moi, je ne jugeais pas un homme sur son passé.
On va passer au sondage. Et vous souvenez-vous du sondage que nous avions fait il y a 2 semaines? Justement, on est dans la mouvance, présidence de la FIA.
Ah oui,
FIA. Tiens, d'ailleurs, alors.
Oui, donc, souvenez-vous, nous vous avions demandé qui peut vraiment changer la F1 en devenant président de la FIA. Vous avez été 88 à voter. Est arrivé dernier, avec 0 vote, peut-être parce qu'il est mal connu du monde de la F1, c'est Jean Cachassin.
Ah oui.
Non, c'est que les gens en veulent pas, tout simplement.
Il a vraiment eu 0, quoi. Hein.
Ouais, en même temps, vu le mal qu'il a géré 20 cours de tennis, il n'a pas lui confié.
Devant lui, avec un vote, on trouve Sepp Blatter, qui était pourtant pour l'introduction de l'arbitrage vidéo.
Je suis déçu.
Alors que c'est déjà le cas en F1.
Oui. 2 votes, Tamara Ecclestone. Ah, non, visiblement, vous ne voulez plus d'Ecclestone dans déception. Le monde de la F1. Hein. 5 votes, vous avez choisi Max Mosley. Oui, sur 88, vous avez été 5 à vouloir le retour de Max Mosley.
Bande de coquins.
Ensuite, on a un paquet d'ex-aequo à 8 votes qui comprend à la fois Obi-Wan Kenobi, Giroud et François Hollande.
Ah, quand même! Alors, j'aimerais savoir le vote de François Hollande.
Il fait des.
Non, mais. Un
vote de dépit. Non, mais tu fais la combinaison des 3. Il fait des anaphores en inversant les phrases et en bougeant de la cristalline, quoi. Enfin, c'est.
Et donc, le podium avec 13 votes, vous avez choisi DSK. Oui, DSK. C'est peut-être parce que vous voulez plus de feedback. Il y a beaucoup de mecs quand même qui suivent la F1, qui a priori sont sur Fan F1 et qui ont voté.
Il faut un ticket DSK Max Mosley. Pourquoi pour toutes les tendances.
Margot Laffitte est arrivée deuxième avec 20 votes.
Comme quoi, le pouvoir de la failloterie n'a quand même pas emporté cette élection.
Oh, attends de voir qui est premier.
Bah, avec 23 votes, donc ça s'est pas joué non plus à beaucoup, 26,14%, vous avez choisi Chuck Norris. Et vous vous souvenez de l'argument ?
Parce que.
Tout simplement.
C'est un très bon slogan. Hein.
Ça, c'est un vrai slogan de campagne présidentielle. Chuck Norris, parce que.
Because.
Au moins,
Chuck Norris approuve.
Oui, c'est ça.
Alors, messieurs, est-ce que vous avez une petite idée pour cette semaine ?
Bah, on a été beaucoup sur la thématique du film, peut-être un film sur les grands destins de la F1, je sais pas. Je soumets, hein, je sais rien.
Oui.
Je sais pas si ça a du potentiel.
Tiens, Max Mousseline.
Ouais. Quel sujet de film pour un film de F1 ?
Ouais.
On ne t'a jamais proposé ça ? Je dis ça comme ça. Hein.
On a débattu sérieusement de quel sujet. On nous a posé une question sur répondeur sur quel sujet on traitera dans un film.
C'est vrai, oui.
On avait fait ça sérieusement.
Sérieusement.
Là, on est dans le cadre d'un sondage.
Oui.
Bon, c'est très sérieux les sondages qu'on fait, je trouve.
Donc, vous voulez qu'on pose comme question comment pourrait-on poser ça ?
Et vous, quel film feriez-vous sur la F1 ?
Ah, c'est très bien comme formulation.
T'as vu, ouais. Crah, c'est beau.
Un film sur la confection de combinaisons en cuir de Nicole Scherzinger.
Oh, c'est pas assez fin, ça.
La sextape de Max Moxley.
Faut trouver des titres, en plus. Mais ça demande du temps.
Non, on va juste donner des sujets.
C'est vrai.
Tu voulais vraiment qu'on mette la sextape ? Parce qu'on a déjà quand même bien chargé Max Moxley il y a 2 semaines, je veux dire.
Oui, mais on peut remettre une couche.
Ouais.
Surtout qu'il sera dans
Moi,
le film.
Moi, je faisais juste que demander. Hein.
Il sera dans le film One, apparemment, sur les extraits qu'on a vus.
Moi, j'aimerais un film sur la carrière de Yuji Hide.
Mais oui, mais en plus, c'est à ça que je pensais.
Un film ou un court métrage ? Qu'on se fait le faire.
Non, un long métrage de 3h30 sur la carrière de Yuji Hide.
Les deux grands prix de Yuji Hide.
L'intégrale.
C'est clair. La rivalité entre Yuji Hide et la Formule 1.
Non, un homme. La carrière en F1 de Yuji Hide.
Et le grand pic, ce serait l'accident avec Christian Albers.
Yuji Hide versus la super licence.
Allez, quel autre sujet ?
L'histoire d'un avignonnais qui tient une usine de gravillon.
C'est petit.
C'est moche.
On va dire donc, si on faisait la liste de tout ce qui était petit dans les sondages qu'on a fait depuis le début de l'année,
faudrait un truc sur Nelson Piquet, parce que je me rappelle qu'il y a quelques années, une biographie était en parlait. Ma vie, mon podium, non, c'était pas ça. Mais...
Ouais. Non, je pense que pour Nelson Piquet, faut pas faire un biopic sur toute sa carrière. Il faut faire juste un biopic
sur Singapour,
sur le moment clé de sa vie.
Sa naissance.
Ses relations compliquées avec son père.
Moi, j'aurais dit juste son accident à Singapour, mais.
Mais le pire, c'est que ça ferait un excellent sujet de film. Je
oui, c'est ça le pire.
C'est ça le truc.
Alors.
Oh, la vie de... Non, ouais, allez. Oh, allez, l'accident de Singapour, allez.
Bah oui.
Le remake de E.T. avec Bernie Ecclestone.
Argent.
Avec le signe, disait-lui, il prendrait pas de voix, il ferait argent. On peut proposer Roche 2 sur la saison 77, la rivalité entre Loda et Eon. Le film a sens unique, tu vois.
Ouais.
Oh mais non, 2004, sur la rivalité entre Schumacher et Barrichello.
C'est mieux, ça.
Ça serait bon, ça.
Very Bad Trip, la version Kimi Raikkonen.
C'est vrai.
Je vais mettre Very Bad Trip 4, The Kimi Raikkonen Edition.
Ah, toi aussi, tu as un sort de la Formule 1, bravo.
Oui.
Kimi t'inspire.
Oui. On est à 6. Ah, on a Trompe la Mort qui met Aime le Maudit avec Montoya. Je trouve ça très bon, ça.
Pourquoi on arrête de taper ce Montoya ?
Ouais, bah on tape deux fois de suite sur Mosley, hein, on peut faire avec Montoya.
Oui, mais Mosley, il aime ça. Alors que Montoya, ça...
Oui, d'accord. Ah.
Montoya est même plutôt sanguin, d'ailleurs.
On est à 7. C'est plus compliqué que la dernière fois, j'ai l'impression.
Ah, le jour d'après, sur l'accident de Romain Grosjean à Spa. Non, la suite d'Apocalypse. qui...
Moi, je dirais de façon générale un film de Roland Emmerich sur Romain Grosjean.
Voilà qui va parler aux cinéphiles.
Mais oui, voilà.
Ça va pas du tout faire du chiffre. Si ça fait du chiffre, c'est seulement sur Grosjean.
Ouais, ou l'inverse.
Il fait toujours des films catastrophes où les chiens survivent. Parce que les chiens survivent toujours dans les films de Roland Emmerich.
Grosse conne. À...
Grosse conne, aucun souci.
Tout va bien.
Ah, il y avait un film sur.
Roscoe, chien fidèle.
Il faut sauver Roscoe. Mais il y avait un film qui s'appelait Rubber sur l'histoire d'une
roue tueur.
Ouais, une roue. C'est un film comme ça avec Pirelli. En fait, tu en prends juste le truc et après en post-synchro, tu rajoutes juste le logo Pirelli sur le truc.
À
8. Ah, on a Totor qui nous propose un film sur les pigeons à Monaco.
Oui, c'est vrai.
J'allais dire Pigeon Run, je sais pas.
ouais, les oiseaux sur les pigeons. Les pigeons ninja, je précise.
Oui.
De Monaco. Bah,
Angry Birds, dans ce cas-là, c'est Angry Birds le film. avec les pigeons ninja de Monaco. Bah
non, comme les tortues ninja, t'as le pigeon ninja.
Voilà. Reste plus qu'une.
Pigeon ninja, pigeon ninja, pigeon ninja, pigeon ninja.
Ça, il écrit déjà sa prochaine chanson.
Merci à Totor qui nous rappelle donc que Les Oiseaux est un film de Hitchcock.
Oui, mais non, même mais moi qui vois au cinéma qui tous les 3 ans le sait. Donc...
sinon...
Petite dernière.
Ah oui, un film roumain de 7h27 retraçant le Grand Prix de Singapour.
Muet, hein, bien sûr.
En noir et blanc.
Le Grand Prix de Valence 2011.
Un classique.
Un classique.
Tu vois, le bon film qui mérite un prix.
C'est clair. L'inverse de Rush, en fait.
Donc, je précise, un film roumain de 7h27 en noir et blanc, muet ou ou sonore?
Ah bah non, muet quand même.
Muet.
Bah clairement, ça revient à dire muet, enfin.
Non.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de plainte.
Roumain de 7h27 en noir et blanc, muet, sur le Grand Prix de Singapour.
Ouais, et avec des comédiens amateurs. En même temps, des comédiens roumains, quoi, donc...
Oh, arrête.
J'aimerais trop le voir, mine de rien. Moi, j'aimerais voir la bande-annonce.
Non, moi, ce que je veux voir, c'est le commentaire audio du SAV qu'on en ferait.
Espèce de
terme,
on a du Buñuel, enfin, voilà. Bah, on a nos 10, hein. Donc, la question, ça sera, et vous, quel film feriez-vous sur la F1? Vous aurez le choix entre la sextape de Max Mosley, la carrière en F1 de UGD, le remake d'E.T. avec Ecclestone, le moment clé de la vie de Ned Piquet Jr., son accident à Singapour, Rush 2, la rivalité 2004 entre Schumacher et Barrichello, Very Bad Trip 4, The Kimi Raikkonen Edition, M le Maudit avec Montoya, un film de Roland Emmerich avec Romain Grosjean, Les Oiseaux sur les pigeons ninja de Monaco, et un film roumain de 7h27 en noir et blanc muet sur le Grand Prix de Monaco avec des comédiens amateurs. C'est merveilleux.
C'est prometteur.
C'est prometteur.
Je sens qu'on va réunir le nous, voilà. Je sens qu'on va réunir les budgets pour faire un...
Bon, le film roumain me plaît bien. Il est long, mais je pense qu'il est dans nos...
C'est long, quand même.
Je sais même pas s'ils diffusent la F1 en Roumanie.
Je sais même pas s'ils ont la télé.
Mais non, mais parce que dans ce cas-là, il suffirait juste de reprendre le Grand Prix avec les commentaires roumains et ça suffirait, quoi. T'aurais ton film. Faudrait juste rajouter 5 heures pour l'effet de longueur, mais sinon.
Il passe un Grand Prix au ralenti.
Ah oui,
tu filmes le public.
Le Grand Prix de Valence 2011, mais tu vois, un ralenti 3 fois. Comme ça, tu verras plus facilement venir les non-dépassements.
On va passer au répondeur.
Le service après-vente de la F1 vous présente le répondeur du SAV. Vous avez une question? Nous y répondons.
Et cette semaine, on a un répondeur bien fourni, très fourni même. Alors, on va commencer par Adelin, qui avait posé sa question, en fait, il y a 2 semaines. Et bon, c'était arrivé lundi, puis comme c'était la fois où... Parce que bon, faut se rappeler quand même que le dernier Mac du SAV n'était pas extraordinaire de notre côté, hein, d'un point de vue technique.
Ne dis pas ça, les gens ne s'en sont pas rendus compte.
C'était compliqué, on va dire.
Ah, il faut surtout pas dire que c'est parce que c'était Dino qui... Hein, bon.
Ah. Du quoi.
Mais Adelin, on ne t'a pas oublié.
Salut à tous. Lors du Grand Prix de Belgique, nous avons pu voir de la poussière de carbone sortir des freins de la voiture de Kimi Raikkonen. Et on en verra aussi certainement à Singapour. Mais d'où vient cette poussière? À prochaine.
Eh bien, Adelin, cette poussière provient de l'usure des plaquettes et des disques de frein en carbone.
Au revoir.
Voilà. Question suivante. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de choses en plus à dire. Quoi.
Voilà, les freins, c'est la dégradation des disques de carbone au freinage.
Peut-être plus les plaquettes que des disques.
Oui.
Parce que les disques, même s'ils sont chauffés à haute température, ils résistent aux températures. C'est les plaquettes qui font l'essentiel de la friction sur le disque. Et donc, c'est les plaquettes qui s'usent plus que le disque.
On a quand même réussi à faire 35 voire 45 secondes sur cette question.
C'est déjà beaucoup trop, je trouve, hein, d'ailleurs. Je pense que j'aurais dû m'abstenir.
C'est vrai qu'on n'aurait pas pu la traiter la dernière fois, c'est vrai.
C'est vrai.
J'avoue qu'il faut dire c'est que Shinji s'est dit non, ça là faut qu'on prenne vraiment le temps de la traiter parce qu'elle a
mais carrément en plus. Non mais en plus enfin ça aurait été compliqué de diffuser l'extrait audio donc voilà. Vous faites chier merde. Donc oui, pour Adelin, c'est... Bon. Non, il ne demandait rien d'autre. Non, donc...
Ah bah non.
Ça va, hein. Une question toutes les 2 semaines, à un moment, ça va s'assécher, quoi, je veux dire.
Oui. Alors sinon, on a reçu par écrit une question de Quentin. Bonjour, une petite question pour le mag. Ce week-end, après le Grand Prix, Alonso et Weber ont reçu une réprimande pour non-respect du règlement article 30.9 et 30.13. Dans le règlement, il est indiqué ce que les pilotes n'ont pas le droit de faire, mais les sanctions ne sont pas attribuées dans le règlement, bien évidemment. Je voudrais donc juste confirmation que ce sont bien les commissaires qui choisissent la sanction sans avoir de barème spécifique qui leur est indiqué. Et ensuite, une vraie question. Dans le règlement 2014, avec l'introduction du permis à points, peut-on s'attendre à voir, avec chaque article du règlement, le nombre de points en sanction qui serait indiqué? Alors, il précise, cette question n'est pas une critique de la sanction donnée au pilote, car je suis d'accord que la sécurité est plus importante que le spectacle.
Bah écoute, la première réponse est oui.
Oui.
Non, mais il y a pas de...
Et le pire, c'est qu'il y a un article du règlement hein, qui stipule que effectivement les pilotes, les commissaires ont toute latitude. D'abord, je vais revenir quand même sur le permis à points qui entrera en vigueur en 2014 et qui est instauré par l'article 4.2 du règlement sportif de la saison prochaine relatif aux licences et qui stipule que, je cite, les commissaires pourront imposer une pénalité de points sur la super licence d'un pilote. Si un pilote totalise 12 points, sa licence sera suspendue pour la course suivante, puis les 12 points seront retirés de la licence. Les points de pénalité seront valables pour une durée de 12 mois, compter la date d'attribution. Mais comme en 2013, en dehors des pénalités automatiques pour non-respect des quotas techniques, c'est-à-dire les changements de boîte, les changements de châssis, les changements de moteur, la FIA renvoie systématiquement à l'article 16.3 définissant les différentes possibilités de sanctions applicables que le règlement classe en 2 types. Les sanctions qui ne peuvent faire l'objet d'un appel, donc c'est-à-dire les drive-through, les stop-and-go, les pénalités de temps sur le classement de course et la réprimande, et les pénalités qui peuvent éventuellement faire l'objet d'un appel, c'est-à-dire les pénalités, les rétrogradations sur la grille de départ, l'exclusion ou la suspension de la licence. Donc, la réglementation laisse en l'état toute latitude au commissaire sportif, comme il est écrit dans l'article 16.2 alinéa A. Je cite, il doit être à la discrétion des commissaires sportifs sur la foi d'un rapport ou d'une requête du directeur de course si un ou plusieurs pilotes impliqués dans un incident doivent être pénalisés. L'article 18.1 précise quant à lui que les commissaires sportifs peuvent infliger une pénalité spécifiquement définie définies par la réglementation sportive de la Formule 1, en plus ou à la place de toute pénalité à leur disposition dans le code sportif international. Donc enfin, voilà, vraiment les commissaires ont vraiment les coudées assez larges, même si dans le règlement, que ce soit 2013 ou 2014, la FIA définit quelques sanctions. Ainsi, au bout de 3 réprimandes, un pilote reçoit automatiquement une pénalité de 10 places, à condition qu'au moins 2 de ces réprimandes aient été infligées pour une infraction de pilotage. Autrement dit, un pilote qui recevrait une 3e réprimande, mais dont 2 seraient dues à une non-présentation à la pesée, ne serait pas sanctionné, parce que ne pas se présenter à la pesée, par exemple pendant les qualifications, n'est pas une erreur de pilotage. Dans le cas de Mark Webber, parce que c'est le sujet qui fait l'actualité, l'Australien avait déjà été sanctionné à 2 reprises pour des infractions de pilotage. La première fois à Bahreïn pour un accrochage avec Rosberg, et la seconde au Canada pour ne pas avoir suffisamment réduit sa vitesse sous double drapeau jaune. Donc peu importe le motif de cette 3e réprimande, il aurait quoi qu'il arrive écopé de 10 places de pénalité. Alors, le règlement sportif 2014, qui est disponible sur le site de la FIA, stipule également qu'un pilote qui utiliserait des pneus sans marquage approprié s'expose de facto à une pénalité de position sur la grille de départ ou à une exclusion de la course. Un pilote ayant participé à la Q3 qui ne chausserait pas au départ les pneus utilisés pour réaliser son meilleur temps en qualification écope quant à lui d'un stop and go de 10 secondes. Il lui en coûtera autant s'il chausse des pneus slick au départ d'une course qui a été déclarée comme étant sur piste humide. Il en va de même si les 4 roues ne sont pas fixées au signal des 3 minutes avant le départ. Sinon, un pilote dont il serait prouvé qu'il a volontairement excédé la vitesse limite autorisée dans les stands s'expose lui aussi à une sanction sportive pouvant aller du simple drive-thru au stop and go, toujours à discrétion des commissaires sportifs. Il en va de même pour les départs anticipés ainsi que pour les dépassements non justifiés sous régime de drapeau jaune. Tout pilote qui s'engage dans la voie des stands alors que la course est suspendue doit être sanctionné d'un drive-thru. Un pilote qui s'arrêterait en piste de façon inexpliquée ou bloquerait un de ses camarades lors des essais ou des qualifications s'exposerait quant à lui à une rétrogradation sur la grille de départ. Alors, il convient malgré tout de noter qu'en aucun cas le règlement 2014 ne propose comme sanction un retrait de points de la licence du pilote, même si dans l'article 16.3, enfin même dans l'article 16.3, alors que pourtant l'article 4.2 qui pose les bases du permis à points dit que les sanctions sont prévues dans l'article 16.3 comme étant des sanctions de points sur la licence. C'est-à-dire qu'en fait dans le règlement 2014, l'article 4.2 nous dit que l'article 16.3 prévoit des suspensions des retraits de points sur le permis, enfin des ajouts de points sur le permis, que techniquement c'est des ajouts de points, sauf que quand on lit l'article 16.3, il n'est jamais question d'un ajout de points. Donc c'est le signe, espérons-le, que le règlement sportif va encore évoluer au cours des prochains mois pour mieux intégrer cette notion de permis à points, même s'il semble malgré tout peu probable qu'on aille vraiment la définition d'un barème clair et précis, tout simplement parce que le règlement stipule qu'il y a la liberté des commissaires de juger en fonction des cas, des dossiers, des requêtes sur ces domaines-là. Donc c'est bien effectivement les commissaires qui ont la main mise sur la sanction et pas la FIA qui ne met pas de barème.
Donc c'est toujours à la tête du client pour l'instant.
La tête du client, c'est
variable, on va dire. Voilà.
C'est-à-dire que quand tu dis la tête du client, tu sous-entends que y aurait un traitement de faveur pour d'autres. C'est juste une étude au cas par cas. Après, effectivement, on peut avoir des commissaires qui vont être influencés par des facteurs, mais on peut aussi considérer que certaines décisions. Et moi, je trouve que c'est un système finalement qui est bien de ne pas avoir systématiquement une sanction qui est prévue pour telle faute. Ça laisse aussi de la liberté aux commissaires de juger des circonstances, de juger sur des faits. Et pas seulement se dire tiens il y a eu un accrochage, il a foutu un mec dehors et ben voilà il est sanctionné. Ah, par contre, il faudra quand même que la FIA clarifie certains points, notamment sur les recours, parce que j'ai dit un peu plus tôt que dans le cadre des suspensions, la suspension de la licence, il pouvait y avoir un appel. Est-ce que les pilotes pourront faire appel s'il y a suspension de la licence après avoir perdu 12 points? De la même manière, est-ce qu'il y aura un système d'appel pour juger de la validité ou non d'un ajout de points sur cette licence, sur ce permis à points la saison prochaine? Tout ça reste encore une fois à définir.
C'est un peu le... voilà.
Quand vous lisez le règlement 2014, vous avez quand même un peu peur parce qu'il est mention dans un article du permis à points et dans tout le reste, il n'y est jamais mention.
Non, mais ça, des fois, c'est n'importe quoi le règlement parce que des fois, d'une année sur l'autre, il supprime un article, donc ça décale les numéros et donc les références vers un article dans d'autres articles ne correspondent plus. Des fois, tu sais pas trop comment lire le règlement parce qu'ils te disent voir article 30.6 et comme il y a eu des suppressions ou des ajouts, bah c'est 30.16, tout prendre 30.5, quoi. C'est
Donc je m'excuse, mine de rien, s'il y en a certains qui ont été perdus par les chiffres.
Oui.
Mais voilà, c'est dire, il y a quand même des pénalités qui sont prévues dans le règlement. Maintenant, même dans les pénalités qui sont prévues, souvent les commissaires ont le choix, soit entre un stop and go, soit un drive-through. Avec en plus la perspective de l'année prochaine, visiblement, la FIA veut introduire des pénalités qui s'ajoutent à la durée d'arrêt au stand. Enfin, voilà, on sent quand même que tout ça est en train d'être réfléchi et que le règlement 2014 l'intègre pas encore.
Oui, et puis ils ont jusque le Conseil mondial de mars pour valider un règlement sportif. C'est pas comme le règlement technique où comme il y a les des impératifs de préparation des écuries, on peut pas le modifier. La date limite pour modifier le règlement technique, c'est toujours le 30 juin. En dehors des changements pour la sécurité qui peuvent être imposés à n'importe quand.
Et enfin, on a un message audio de Jackie Ratzenberger.
Bonjour, c'est Jackie Ratzenberger de la IFSIM. Je vous contacte pour deux questions suite au Grand Prix de Singapour. La première concerne l'infiltration de cortisone que Kimi Räikkönen a eue selon Eric Boullier pour pouvoir faire le Grand Prix. Je sais que la cortisone fait partie des produits interdits, donc susceptibles d'être contrôlés à d'être détecté pour un contrôle antidopage. Je voulais savoir ce qu'il en était, et d'une manière plus générale, comment le dopage est détecté au niveau de la F1, notamment au niveau de la déclaration que les sportifs doivent faire systématiquement de leur déplacement pour pouvoir faire des contrôles inopinés. Est-ce que c'est le cas en F1? La deuxième question concerne l'affichage des volants. Avec le Grand Prix de Singapour, on voyait très très bien les informations qui étaient affichées sur les volants. Par contre, on n'avait pas du tout d'informations sur ce que c'était. J'espère que vous pouvez nous répondre. On voyait notamment sur celle de Vettel pendant le tour de qualif, on voyait à droite de la vitesse, on voyait -0,04. Voilà, merci d'avance et j'espère que vous allez faire un bon live demain. Salut.
Alors je te confirme, Jackie, pour l'instant c'est un bon live.
Alors, vous avez noté, hein, Jackie fait sa pub.
Oui, oui, c'est vrai.
On vous invite quand même à visiter son magazine, parce que Jackie est le rédacteur-chef, l'éditeur, le créateur d'un magazine sur la simulation qui s'appelle Live Sim. Donc voilà, vous cherchez Live, je crois que c'est livesim.fr, il corrigera sur le chat, il va sans doute m'engueuler.
Live Sim.
Voilà. Donc n'hésite pas à aller voir, ça peut être intéressant, moi ça me parle pas du tout.
Live-sim.com.
Au pire, si vous avez un doute, vous tapez Fantasy F1. Vous n'avez pas le lien vers Live-sim, mais vous serez sur Fantasy F1.
Vous savez que cette partie, c'est le répondeur du SAV, c'est pas la partie promo du SAV. Oh. Je crois que là encore, Dino et Gus Gus, vous avez préparé des trucs.
Oui, parce que Fab n'osait pas venir. Fab avait peur.
J'avais des raisons.
Donc, moi, je vais revenir sur la question concernant la prise de cortisone de Kimi Räikkönen. Alors, pour répondre à la question de Jackie, je vais quand même citer mes sources parce que c'est un sujet assez sensible. Je me suis basé sur un article publié en 2008 par le docteur Patrick Baker, qui est consultant en médecine du sport et qui est médecin-chef de l'Institut de recherche en bien-être, médecine et sport santé, ainsi que sur des informations disponibles sur divers sites internet et notamment sur le site cortisone-info.fr. Alors, avant toute chose, il convient de rappeler que la Formule 1 se plie aux règles imposées par l'Agence mondiale antidopage et que la cortisone, comme tous les corticoïdes, fait partie des produits considérés comme dopants. La cortisone agit à la fois sur la production de glucose et sur le système nerveux central. Elle permet donc de tenir plus longtemps l'effort, de résister à la fatigue et aux douleurs et de mieux régénérer son stock de glycogène et ce de façon plus efficace que la prise de glucides, donc concrètement de mieux se remettre d'un effort. À cela s'ajoute le fait que la cortisone crée une sensation d'euphorie qui, chez un pilote de Formule 1, peut l'amener à faire davantage preuve d'audace en piste. Voilà, donc c'est des choses qui peuvent éventuellement peut-être expliquer la remontée de Kimi Räikkönen.
Le dépassement sur Button.
Alors maintenant, il faut quand même garder à l'esprit que les produits dopants sont bien souvent et avant tout des produits thérapeutiques, ce qui est le cas de la cortisone que l'on utilise généralement dans les traitements anti-inflammatoires ou pour lutter contre des allergies. Alors pour cela, les sportifs peuvent disposer, c'est valable aussi bien en Formule 1 que dans les autres sports, les sportifs peuvent disposer d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, une AUT. Dans le cas de la cortisone, une AUT n'est pas nécessaire si le traitement est administré par voie locale orale, c'est-à-dire en pommade, en gel, en spray ou en goutte, car le passage de la cortisone dans le système est très limité et sera peu ou pas détectable lors d'un contrôle antidopage. Pour tout autre mode d'administration, un traitement à la cortisone entraînera un contrôle positif et devra soit faire l'objet d'une déclaration d'usage avec justificatifs médicaux, soit nécessiter donc une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. À noter malgré tout que plus le mode d'administration est général, plus il s'adresse à des pathologies jugées graves, qui sont donc incompatibles avec la pratique d'une activité sportive, surtout au haut niveau, et qui sont donc généralement source de forfait médical. Dans le cas de Kimi Räikkönen, il s'agissait d'une infiltration. Voilà, donc on est dans ce qu'on appelle un traitement loco-régional. Là, il y a sans doute juste besoin en cas de contrôle, de dire voilà, j'ai pris la cortisone et de montrer patte blanche en justifiant cette prise de cortisone.
Oui, et que les certificats médical soit pas antidaté comme Lance Armstrong.
Ouais. En plus, alors... dans le cas de Kimi, ils ne l'ont pas caché, puisque même avant la course, ils ont dit qu'il avait pris de la cortisone.
Oui, de toute façon, on peut partir du principe que, de toute façon, comme ils ont balancé, c'est quand même pas un nom qu'on balance dans le milieu du sport aussi facilement, s'ils ont pris la cortisone, il faut quand même s'assurer déjà que réglementairement, ils sont dans les clous et que, voilà, de toute façon, c'est tellement annoncé publiquement que normalement, il n'y a pas d'embrouille. À noter quand même que la cortisone a des conséquences. On s'en est beaucoup servi dans le cyclisme il y a quelques années. C'est beaucoup moins le cas maintenant parce qu'il y a des conséquences sur les traitements longs. Ça a des effets inverses. Ça entraîne des lésions musculaires et sur les forces, ce qui fait que ça tue un sportif, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le sportif va profiter quelques années de ce traitement-là. Mais à un moment donné, comme souvent dans le dopage, ça va être négatif pour son organisme et pour sa performance. Alors, en ce qui concerne la lutte contre le dopage en Formule 1, Fernando Alonso déclarait récemment que les pilotes étaient astreints aux mêmes règles que leurs collègues cyclistes, et il sait de quoi il parle, même s'il ne sera pas propriétaire d'une écurie d'une équipe de cyclisme, et qu'ils doivent par exemple tenir informé la FIA de leurs déplacements tout au long de l'année pour la tenue des contrôles antidopage. Les derniers contrôles en date remontent au 10 septembre dernier à 6h du matin, et je ne résiste pas à l'envie de vous dévoiler les trois tweets des trois personnes contrôlées, qui montre aussi le fait qu'on est quand même dans quelque chose qui est assez nouveau en Formule 1. On a d'abord Valtteri Bottas qui témoignait donc sur Twitter. Je cite « Réveil surprise à 6h ce matin pour pisser dans une bouteille avec quelqu'un qui vous surveille de près, une première. » Ensuite, on a Max Hilton qui était pour qui c'était aussi une première. Je cite « Ma nuit s'est terminée à 6h02 ce matin avec l'agence antidopage qui frappe à ma porte. Première fois en 12 années de compétition que je me fais contrôler. » Et enfin, on a Fernando Alonso qui lui aussi a dû se soumettre au contrôle antidopage, mais il était déjà passé au mois de mars lors d'un contrôle, donc un peu plus blasé. Il déclarait sur Twitter « Contrôle antidopage à la maison aujourd'hui, je retourne au lit. » Voilà. Alors maintenant, comme je vous le dis, c'est quelque chose qui est quand même malgré tout assez récent, puisque jusqu'en 2005, c'est la commission médicale de la FIA qui appliquait ses propres règles antidopage, avant que la Fédération internationale de l'automobile ne se tourne vers l'Agence mondiale antidopage, l'AMA, pour renforcer ses tests. Il faut cependant attendre décembre 2010 pour que la FIA signe le code antidopage de l'AMA, en ayant pris soin au passage de garder toute autorité sur les procédures d'appel et donc sur les sanctions. Ainsi, tout pilote contrôlé positif dans un championnat régi par la FIA pour des produits dopants ou récréatifs, donc là on est des drogues, hein, tout simplement, est automatiquement exclu du championnat dans lequel il concourt, et il s'expose qui plus est à une suspension de sa licence pour 2 ans et à vie en cas de récidive. Donc voilà, il y a quand même des choses, et on est en Formule 1 dans le même contexte, même si les contrôles sont peut-être pas suffisamment réguliers et peut-être pas suffisamment importants, on est dans le même contexte que dans le cyclisme ou dans d'autres sports qui respectent les règles de l'Agence mondiale antidopage.
Je rajouterais si vous souhaitez plus d'informations, que sur le site de la FIA, il y a toute une page anti-doping où il y a plein de documents en français, en anglais, que ce soit le règlement de la FIA, les textes de l'AMA, la liste de produits prohibés, par exemple la FIA, parce que bon, il y a une liste qui est commune à tous les sports, et il y a deux produits qui sont interdits par certains sports, c'est l'alcool et les bêta-bloquants, dont font partie la FIA, par exemple. Ouais. L'alcool est interdit, voilà, sur les compétitions FIA, et quasiment tout est disponible en français et en anglais. Je crois même qu'il y a des documents pour faire les demandes d'AUT.
C'est pour ça que Kimi Raikkonen, la cortisone, c'est rien, parce que vu ce qu'il est chargé en alcool.
Il a une AUT pour l'alcool.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un rappel, justement, du nombre de tests qu'ils ont fait. Il y a les chiffres sur les dernières années. Et sur 2012, donc pour les championnats FIA, donc on parle de la F1, mais aussi GP2, GP3, WTCC, WRC, le kart, le championnat européen de camions, il y a une bonne vingtaine de championnats quand même. Sur l'année 2012, il y a eu 25 tests en compétition concernant 103 pilotes. On parle d'une vingtaine de championnats. Hein.
Ouais.
103 pilotes et hors compétition, une vingtaine de phases de tests pour 20 pilotes.
Ouais. C'est très peu. Hein.
C'est peu quand même. Ouais.
Surtout qu'il faut, quand même comprendre que dans matière de dopage, tout sport a une forme de dopage. Même le golf, il y a des méthodes de dopage. On ne va pas utiliser les mêmes produits que dans le cyclisme parce que ce n'est pas le même effort, mais on va quand même avoir du dopage, ne serait-ce que pour utiliser, pour améliorer l'acuité visuelle, pour limiter les tremblements, pour agir sur le stress, sur la tension.
Mieux supporter l'entraînement physique aussi.
Mieux supporter surtout les tenues qu'on t'oblige à porter au golf parce que là, c'est... Donc en Formule 1, il y a évidemment des produits qui sont conseillés, si vous voulez vous doper en Formule 1, qui sont conseillés pour vous doper.
Oui, bien sûr, oui.
Et la cortisone peut éventuellement en faire partie parce que à la fois sur l'effort, surtout l'aspect euphorisant qui pour un pilote est assez intéressant malgré tout de pouvoir croire que tout est possible, ça a un impact réel sur le pilotage.
Ah, c'est pour ça, pareil, que Raikkonen a souri après la course. C'est fou, les effets que ça a la cortisone.
Et donc, sinon, Gus, toi, tu avais des informations sur les volants.
Alors, oui, sur les volants. Donc, qu'est-ce qui est affiché sur les volants? Alors, mon cher Jackie, ça dépend, parce que c'est un affichage qui est relativement réglable et qui s'adapte un peu au contexte. Donc, dans le cas que tu as décrit, c'est-à-dire Vettel pendant le tour de qualif, donc effectivement, il y avait la vitesse, et de l'autre côté, donc le moins 0,04, c'est ce qu'on appelle le delta. C'est l'écart entre le tour actuel et un tour de référence. Donc là, moins 0,04, ça voulait dire que Vettel était en avance de 4 centièmes sur un tour de référence, donc généralement c'est le plus rapide, quoi. Sinon, effectivement, ça dépend du contexte. Donc par exemple, au départ, on voit très bien sur les diverses vidéos du départ d'Alonso à Singapour que à droite c'est le régime moteur, donc c'était quelque chose comme 13,8 pour 13 800 tours, et à gauche c'était un 0 qui s'est avéré une fois qu'il a atteint une certaine vitesse, c'est le pourcentage du kers utilisé. Donc c'est-à-dire que je crois qu'on a très bien vu ça dans les spécialistes, il a utilisé quelque chose comme 34% de kers au départ. Donc sur son volant, au premier freinage, il y avait écrit 34 à gauche et le régime moteur avait disparu de l'autre côté, quoi. C'était la vitesse, si je ne m'abuse. Donc au départ, on voit le régime moteur. Donc quand on utilise le kers, il y a le pourcentage d'utilisation de kers qui réapparaît. Quand on fait un réglage sur le volant, ben on a la valeur actuelle du réglage qu'on est en train de changer. Effectivement, évidemment, et le volant peut aussi servir à faire passer des messages au pilote, alors pas directement du stand vers le pilote parce que c'est pas autorisé, mais par exemple quand il faut arrêter la voiture, sur le volant il est écrit ENG stop. ENG d'un côté pour engine et stop de l'autre, quoi. Ça veut dire que la voiture n'arrivera pas au bout, donc il faut que le pilote s'arrête au bord de la piste, quoi, le plus rapidement possible. Donc voilà, ça, c'est en règle générale, t'as la vitesse d'un côté et le delta. Sinon, ça dépend du contexte, quoi. Sachant que ça dépend du réglage qu'est en train de faire le pilote sur son volant ou s'il est en qualif ou au départ ou etc etc.
On a une autre question sur le chat, une question de Totor qui nous demande lors de la course, quand un pilote bloque sa roue, est-ce que c'est le pneu ou le frein qui bloque?
Alors, quand un pilote bloque sa roue, le pneu bloque pas. Non, le pneu bloque pas sur la piste. C'est le frein qui bloque. C'est la pression du frein est trop forte. Est trop forte pour que la roue continue de tourner. Donc la roue frotte par terre, et d'où la fumée, en fait. La fumée, c'est le frottement de la piste sur la roue qui est bloquée, qui fait la fumée. Mais c'est le frein qui bloque la roue et pas la piste qui bloque la roue. J'ai bien compris la question. Hein.
Oui, non, c'est ça.
Bon.
On a donc Jackie Ratzenberger, j'ai corsé son nom, le pauvre, qui nous remercie en précisant qu'on n'a eu qu'une journée. Et d'ailleurs, je tiens à dire, Jackie, ça serait bien que quand on te demande ta question sur Facebook, tu nous dis « Ouais, j'ai une question, une compagnie », et que tu nous la donnes entièrement. Tu nous rajoutes pas des trucs à l'enregistrement. Parce qu'il improvise, tu vois, monsieur enregistre, il improvise, voilà.
Il fait du freestyle.
On vous rappelle, hein, si vous souhaitez poser une question au répondeur, deux possibilités, soit par écrit à l'adresse mail répondeur@savf1.fr ou bien par audio sur le module audio du site SAVF1, qui est du côté gauche maintenant. Oui, il a changé.
Alors, il était à droite, aussi pour dire qu'il y a une troisième manière pour le répondeur, c'est d'utiliser le formulaire de contact qui se trouve sur, sur le site savf1.fr. Dans contact, vous avez un formulaire pour me poser des questions et un formulaire spécifiquement dédié au répondeur. C'est une nouveauté, on innove.
Oui, parce qu'il faut, oui, parce il faut que... préciser que le site est ressuscité, on ne sait, oui, on ne sait comment.
Oui.
Merci Gus Gus.
Oui, enfin, j'ai pas fait grand chose, hein, je veux dire.
Il est revenu d'entre les morts, c'est... Bon.
Non, mais tu sais, c'est un petit pas pour le développeur, un grand pas pour le SAV.
Ouais, ça m'évite de, ça m'évite du boulot, en fait.
Sinon, Dino, concernant les émissions d'après-course, tu voulais peut-être faire le point.
Oui, on a donc un candidat pour la prochaine émission, pour la Corée du Sud. Maintenant, il va nous confirmer, j'espère, d'ici la fin du week-end, s'il vient ou pas. S'il vient pas, on fera un live avec les chroniqueurs, s'ils acceptent d'être là. Sinon, on sera tout seul, je te dis, en live, on aura l'air con.
Non, non, vous inquiétez pas.
Mais sinon, clairement, aujourd'hui, en termes, au niveau des auditeurs, c'est pas qu'on veut plus vous recevoir, mais c'est que...
Mais en fait, on veut plus vous recevoir.
Voilà. mais clairement, pour nous, recevoir un auditeur, ça a un impact sur l'administration de l'émission, et notamment sur le montage, parce que c'est quand même des émissions qu'on tient pour avoir une meilleure qualité, parce qu'on ne sait pas la qualité à la fois de l'auditeur, mais aussi de son installation informatique. Donc, pour se prémunir d'éventuelles surprises au niveau de qualité, ça nous est arrivé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps avec un auditeur qui nous parlait depuis son iPod Touch. Voilà. Donc,
salut à toi, auditeur.
Donc, voilà. Généralement, on enregistre pour pouvoir intervenir et améliorer la qualité. Maintenant, ça a un coût en termes de temps, et le live nous fait économiser ce coût en termes de temps. Donc, dans la mesure du possible, si vous êtes déjà venu, bah, c'est méchant, mais ne posez pas candidature.
C'est gentil d'être venu déjà.
Mais voilà, vous êtes déjà venu. Il y a vraiment que ça sera vraiment que qu'à titre exceptionnel et au cas par cas qu'on recevra du monde, mais on va quand même essayer de privilégier le live qui pour nous est un énorme gain de temps et d'énergie, qui nous permet aussi de consacrer plus de temps à essayer d'améliorer la qualité de l'émission, d'essayer d'améliorer la qualité des lives, de proposer des nouvelles choses, de réfléchir à 2014. Voilà, tout ça.
Et puis les lives, c'est l'occasion d'être encore plus nombreux avec ceux qui sont dans le chat.
Oui.
Voilà, c'est plus forcément le même type de participation, mais ça ne veut pas dire non plus que vous pouvez être inactif, quoi.
C'est comme refuser une nuit d'amour avec une femme pour participer à une partouze. Voilà, le live, c'est ça.
On va te laisser responsable de tes mots. Hein.
Je tiens à rappeler qu'on a quand même commencé ce podcast, enfin, on l'a pas commencé, on a quand même cité des mots comme anaphore, on a quand même cité du Victor Hugo. Enfin, on finit quand même sur de la partouze, quoi.
C'est vrai que...
C'est son mot de la fin.
Non, ne lui donne pas d'idée, s'il te plaît, Gus Gus.
On n'oublie pas, hein, comme d'habitude, que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio, c'est sur Podcast France, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter avec le hashtag SAVF1 et nos différents comptes Twitter dont on retrouve les liens, puisque maintenant, le site remarche.
Ouais.
Ils sont en bas, hein, par contre. Hein. Ils sont pas très visibles, mais ils sont en bas.
On a dû... voilà. On a fait des compromis.
On a fait quelques travaux.
Et puis, bien évidemment, c'est en live, hein, donc sur l'adresse www.savf1.fr/live. Messieurs, la F1 sur Internet, c'est sur...
fanf1.com.
Parce que le SAV de la F1, c'est...
Le Ritz, le podcast.
C'est en direct.
Oui.
La famille,
en couleur.
C'est aussi avec des références aux partouzes.
Et avec ça ne libère toujours pas le slip.
Tu sais, je l'ai revu aujourd'hui, ton slip, et je me dis non.
Et il va bien, donne-moi de nous.
Écoute, il commence à sentir le renfermé. Je te cache pas que
ça, c'est mauvais signe. Ça veut dire quelqu'un a essayé.
Et pas qu'une seule personne.
Oh là là.
Patrick Sébastien fait tourner les serviettes. Moi, je fais tourner les slips.
Donc on se retrouve la semaine prochaine. Finnegan fait bien de me le rappeler. N'oubliez pas, pour la semaine prochaine, il y a le concours top à position.
Pour remporter une magnifique serviette de plage.
Oui, ça c'est la Corée. Hein.
Ça c'est la Corée. La Corée qui va sans doute être émaillée par un typhon.
Enfin, une tempête. Oui, il y a un risque de typhon dimanche.
Oui, oui, dimanche. Il va passer juste au-dessus du circuit. Hein.
Voilà. Ah, ils vont faire des concours de petits bateaux dans la pit lane.
Ah oui, là on parle pas
mais là,
de pluie, hein, c'est le typhon.
Voilà. Est-ce qu'on sait si des requins seront dans le typhon?
Et donc n'oubliez pas, donc pour les SAV d'après-course, le concours, la question, c'est pas très compliqué. Tout simplement, il faut nous citer des chansons où, dans les paroles, on trouve le terme Formule 1, F1, Formula One, même Formel Ein, si vous aimez la chanson allemande, pourquoi pas.
Oui, c'est facile, hein. On en trouve des dizaines.
Oui, oui, oui. On a déjà reçu des réponses. Et oui, il y a possibilité de trouver.
On précise que ça n'inclut pas les chansons qu'on passe en milieu d'émission pour aller faire la pause pipi. Oui. et toute parodie est logotée SAV de la F1 ou SAV de la F1.
Oui, c'est trop facile sinon.
Là, on a les 5, hein, c'est fastoche. On a même 6 maintenant, facilement.
Messieurs, le mot de la fin?
Bien, pour moi, ce sera cave, parce que c'est la dernière fois que j'enregistre depuis la cave de mon frère.
Ah. C'est bien le chômage.
C'est la première mission qu'on enregistre en tant que chômeur. D'ailleurs, j'en profite, hein, petite annonce personnelle.
Comme quoi l'ascenseur social n'est pas cassé.
Non.
Il fonctionne encore un peu.
Eh bien, pour moi, ce sera élagage.
Oh.
Tu ne l'as pas déjà fait celui-là, élagage?
Ah non, vous me dites ça à chaque fois, arrêtez. Ah,
celui-là, sincèrement, je crois que élagage.
Bah, c'est peut-être parce que tu le fais à chaque fois.
En fait, à chaque fois que je mets le même mot, ils se rendent compte que deux fois. Mais tu l'as pas déjà fait celui-là, Fab?
c'est pas faux.
Le E suivi d'un long silence, si. Je crois. Molette.
Oh, bien moi, ça sera. Oh, fidèle à ma tradition, ça sera GTA.
C'est trois mots,
est-ce
GTA.
Est-ce qu'on peut l'accorder
Oui, non. Mais c'est un titre.
C'est refusé.
Oui, non, sincèrement, moi j'ai joué au Scrabble avec ma grand-mère et je vérifie dans le dictionnaire, je vais pas souvenir qu'il y avait GTA en.
C'est pas dans l'officiel du Scrabble.
Oui, mais arrête de jouer au Scrabble, va jouer à GTA, fais comme tout le monde.
Ça y est, il a deux PS3, il se sent plus pissé.
C'est pas le fait d'avoir deux PS3, j'ai qu'un seul jeu, t'inquiète pas.
Il y en a une où il joue avec un personnage, et l'autre où il joue avec l'autre. Il en attend une troisième, là même.
Vous êtes jaloux de cette belle PS3 ultra slim blanche, qui fait très plastoc, hein, faut l'avouer, hein, mais mon frère est content, lui, voilà. Allez.
Bien.
Ciao à tous, et à la semaine prochaine.
Salut.
Salut.